Qui fait vraiment le travail d'aller vraiment s'intéresser aux arguments de chaque côté? Personne. David Laroche, par exemple, Tony Robbins aussi, sont des personnages qu'on peut démoniser et sont des personnages qui sont parfois très vivement critiqués ou, à l'inverse, parfois, les gens sont subjugués par ce genre de personnages. L'argent n'est pas le problème, à mon sens. L'argent reste l'outil. C'est la question de la finalité. Qu'est-ce que je fais de cette accumulation de finances? Il y a des personnes qui ont des fortunes immenses. Si elle contribuait ne serait-ce que 2% de ses fortunes, le sujet du manque d'argent pour les caisses de retraite disparaît. Si tu t'intéresses pas à la politique, ça veut dire je donne la responsabilité à d'autres personnes dont j'ai aucune maîtrise des valeurs de ces personnes, des intérêts de ces personnes. Je sais pas pourquoi elles prennent ces décisions. Mais je décide que le sort de comment ma vie sera organisée est mieux dans les mains de quelqu'un d'autre. Et je pense que tant que ça c'est la réalité pour plein de gens et qu'on n'en discute pas et que les entrepreneurs qui ont de plus en plus de pouvoir ne s'occupent pas de ce sujet, on décide consciemment de donner les clés à d'autres personnes, de décider à notre place de à quoi va ressembler notre vie et de, par exemple, allonger notre temps de travail obligatoire de 2 ans de plus.
Je sais pas si c'est toujours le cas, mais à un moment donné, t'avais été très inspiré par ce que faisait David Laroche. Ça ressemble à quoi un séminaire de David Laroche?
C'était un hôtel proche de l'aéroport, un peu luxueux. On était une cinquantaine et là, c'était des tables rondes où on était en équipe de 4-5 par table. Globalement, c'est...
Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Stratège. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Thomas Burbidge. Thomas Burbidge, c'est d'abord un ami. Hein, on va commencer comme ça, je crois. C'est quand même d'abord, oui. Avant toute chose, c'est quand même un ami. Et si je devais un peu détailler ce qu'il fait au quotidien, Thomas, c'est quelqu'un qui va proposer des expériences pédagogiques. Alors, il va avoir tout le loisir de nous expliquer ce que c'est que des expériences pédagogiques. Moi, j'ai ma petite idée, mais on va quand même essayer de détailler tout ça. Il propose des expériences pédagogiques pour les solopreneurs, pour les indépendants, pour les accompagner, en fait, dans toutes les facettes de leur vie. Et son objectif, et ça, j'ai trouvé vraiment ça très cool quand j'ai... à force d'échanger avec toi, et puis quand j'ai écouté aussi pas mal de petites interviews
t'en as marre.
Ces dernières semaines... J'en ai pas marre, mais j'avais hâte de pouvoir créer la nôtre d'interview. ce qui m'a vraiment marqué, c'est que ton objectif, finalement, c'est de faire en sorte que le freelancing, ça soit une vraie option en sortie d'école, en sortie d'études. Que ce soit pas quelque chose de précaire. Le freelancing, la voie de l'indépendance, le soloprenariat, que ça soit vraiment une vraie option et que les gens puissent se dire, bah oui, plus tard, j'ai envie d'être solopreneur. Plus tard, j'ai envie d'être freelance. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on entend peu, et c'est une vision que j'ai trouvée vraiment très cool. Thomas, bienvenue.
Merci Romain, ravi d'être là.
Enfin. Vraiment content de te recevoir. En fait, j'avais envie de démarrer par quelque chose d'un petit peu particulier. Je me rends compte que ce qui est vraiment très cool avec toi, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à te mettre dans une case.
Ah yes.
On n'arrive pas à te mettre dans une case. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, moi-même, la première fois où je t'ai rencontré, il y a quelques années, je ne te mettais pas dans la même case
que maintenant.
Mais maintenant, je connais un peu plus ta complexité. On se parle toutes les semaines, donc je sais. Mais en fait, tu as une vraie singularité. On n'arrive pas à te mettre dans une case. Pourquoi je dis ça? Parce que d'un côté, tu as un pied dans le marketing, dans le business, dans l'infoprenariat, dans tout ce qui est très business. Et de notre côté, tu as un pied aussi dans des préoccupations plus... écologique,
militante,
ouais, carrément. Et c'est en général un cocktail qu'on a quand même pas trop l'habitude de voir. Est-ce que tu cultives cette singularité?
Est-ce que je la cultive? Évidemment que je la cultive. Je crois que le point de naissance de ça, il vient du fait que une partie de ce que je recherche dans ce que je fais avec ma boîte et dans ma vie, c'est de me rapprocher d'une meilleure compréhension du monde et d'une meilleure compréhension du fonctionnement de l'être humain dans ce monde. Et pour ça, je crois qu'on a besoin d'une multitude de points de vue qui me viennent en fait tout naturellement de ma vie. J'ai grandi en Dordogne. Mes parents étaient un peu hippies, même très. Enfin, le rêve de mon père, c'était retaper une vieille ferme défoncée au fin fond de la Dordogne et en faire un beau lieu de vie pour nous. Mes parents, quand j'ai grandi, j'étais végétarien parce que mes parents ont ces valeurs-là. Enfin, voilà. J'ai grandi dans un certain contexte un peu hippie. J'ai beaucoup d'amis qui sont partis de Dordogne et qui sont revenus, qui vivent complètement dans des cadres de vie alternatifs, qui m'inspirent énormément. Et en même temps, Ma vie professionnelle m'a mené à faire mes études à Paris, dans les cabinets de conseil, les agences de stratégie de marque, à bosser avec des boîtes comme Carambar, des trucs comme ça quand je faisais des missions freelance. Et du coup, j'ai effectivement ce mélange qui vient tout naturellement de ma vie et en même temps, qui je crois me donne un point de vue sur l'entrepreneuriat, la politique, enfin les sujets qui me fascinent de comment fonctionne le monde, nuancé. Et clairement, je crois que la vérité se trouve dans les nuances, la vérité se trouve dans les zones de gris, et que donc c'est important de le cultiver. Et donc, j'adore traîner, par exemple, dans l'écosystème startup parisien avec des gens qui ont une certaine vie, puis rentrer chez moi au fin fond de la Corrèze, aller à l'entraînement de foot dans le club de foot où j'ai grandi, où il y a encore des gens avec qui j'étais à l'école quand j'étais en primaire, qui sont restés, qui sont agriculteurs, qui bossent, qui sont ferrailleurs. D'ailleurs, il y a des gens que j'ai rencontrés dans mon équipe de foot qui était là l'an dernier, qui sont à leur compte, mais ils sont ferrailleurs. Donc leur taf, c'est de faire le tour de toutes les petites maisons de campagne, voir s'il n'y a pas de la ferraille qui traîne, la récupérer, essayer de la revendre ou de la nettoyer, d'en faire des pièces plus alléchantes. Ils sont à leur compte, tu vois. Pour moi, c'est des entrepreneurs. Wow. C'est ouf, hein. Ouais. Mais du coup, cette diversité-là, effectivement, elle me nourrit énormément dans ce que je fais et dans les convictions que je défends avec ma boîte.
Qu'est-ce que ta casquette business t'apporte dans la vie, justement, éco-responsable, etc. Et qu'est-ce que ta casquette éco-responsable t'apporte dans ton quotidien d'entrepreneur, de marketeur?
Je pense que ça me permet d'équilibrer mes points de vue sur les choses. Dans mes conversations, je suis souvent le quotient équilibrage. Donc, quand je suis avec mes potes très militants alternatifs qui commencent à tomber dans les biais qu'on peut avoir dans ce milieu-là, que l'argent est mauvais, etc., etc., je suis souvent celui qui apporte le point de la complexité un peu plus approfondie, la nuance là-dedans. Et de la même manière, souvent, quand je traîne avec ma bande de potes très business qui déborde sur des avis politiques de droite, notamment les gens avec qui j'étais à l'école, parce que j'ai fait Dauphine, qui est une école qui forme des cadres sup. La majorité de mes potes de Dauphine bossent dans des boîtes de luxe, Hermès, Chanel, tout ça. Et ben là, je suis le quotient de... Ben en fait, on vit dans un microcosme, les gars. La vie, c'est pas à Paris. C'est pas ce qu'on vit là. La vraie vie de la grande majorité des gens qui vivent dans ce pays de la France, eh ben, c'est pas du tout ça. Elle ressemble pas à ça. Elle ressemble plus à... comment je fais pour payer mon plein d'essence pendant cette crise de l'énergie. Et du coup, déjà, ça nuance mon point de vue sur les sujets. J'ai l'impression donc que j'accède à un plus gros niveau d'esprit critique et de détail sur les sujets qui m'intéressent, parce que j'ai plusieurs points de vue qui sont nourris. C'est tout le débat de l'intelligence collective, c'est de dire que si on rassemble énormément de cerveaux ensemble, on est nourri par énormément de parcours de vie et donc on est plus intelligent ensemble, et d'ailleurs la science le prouve de plein de manières différentes, et on parlera des expériences qui prouvent ça si ça t'intéresse, que c'est ensemble qu'on est plus intelligent que seul. Et donc déjà j'ai l'impression que à mon moindre niveau seul, me cultiver des modes de vie complètement différents, ça m'aide là-dedans. Comment ça m'aide ensuite dans mon business? Je pense que du coup j'accède à des niveaux de savoir différents parce que je suis pas dans une seule voie, mais je m'inspire de, par exemple, la permaculture. Qu'est-ce que la permaculture a pu apporter à une stratégie entrepreneuriale? Et de la même manière, imaginons, un jour, j'ai envie d'ouvrir un écolieu avec mes meilleurs potes. Je pense que ma facette business me permettra de créer un modèle économique pour un écolieu qui le permettra d'être beaucoup plus résilient que la majorité des écolieux qui sont montés par des gens qui détestent le business et l'argent. Donc je pense que c'est comme ça que les deux me nourrissent.
Mais c'est incroyable parce que tu arrives à faire un pont, à faire plusieurs ponts que la majorité des gens n'arrivent pas à faire. Et je me rends compte qu'en fait, on est quand même attiré par nos pairs. En général, on reste un peu entre communautés, quelque part, ou entre pairs. Et toi, justement, tu as un pied dans plusieurs communautés, en fait.
Et en même temps, je me sens appartenir, en fait.
Ouais.
Je me sens à la fois appartenir et à la fois être à l'extérieur. C'est très intéressant. Ouais. Quand je suis avec mes potes de Dauphine, je me sens parfois pas à ma place. Et en même temps, sur d'autres sujets, bah, je suis à ma place. Et je pense que De plus en plus, j'ai pris du plaisir et je trouve du plaisir dans le fait d'être le petit grain de sable qui change un peu les mentalités et qui fait que juste le circuit de reproduction sociale ne continue pas à l'infini dans le même sens. Et ça, ça se passe surtout quand je suis dans, et si je caricature, quand je vais sur la droite du spectre politique, ouais. J'ai souvent ce rôle-là, parce qu'il m'identifie comme étant l'un des leurs, en fait. Tu vois, je ne suis pas l'opposition qui parle, je suis l'un des leurs qui a un regard plus nuancé qu'eux et qui donc peut apporter des légères réflexions nouvelles qui ne se passeraient pas si j'avais pas ces autres points de vue sur la vie, quoi.
Tu vois, ce que je trouve hyper inspirant dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, on n'est tellement pas dans l'âge de la nuance.
Non.
Que toi, tu prouves
pire
par
encore.
Ton parcours, et pire encore, on est dans l'âge du clivage.
Ouais, de ouf.
Et toi, tu prouves par ton parcours, par ta personnalité, que cette nuance et justement cette personnalité avec plusieurs facettes,
ouais.
C'est ce qui a permis de développer ton business et c'est ce qui enrichit en fait ton business et ton expérience. Et c'est ça qui est juste dingue parce que j'ai l'impression que c'est contrariant, tu vois, c'est à contre-courant. De ce qu'on entend, de ce qu'on voit, de certaines directives qui disent voilà, il faut absolument être ultra clivant, il faut choisir un camp. Et toi, tu es en train de te dire non, je choisis pas de camp, j'apporte du recul, j'apporte de la nuance, et ça me sert, et c'est une force. Je te prends quelques secondes pour deux choses. Déjà, te remercier d'être arrivé jusque-là. Tu fais peut-être partie des 5% des auditeurs qui ont encore une grosse capacité d'attention, et je suis content que l'épisode te plaise. Et je voulais aussi te dire que j'ai enregistré avec Thomas ce que j'appelle la question off. Alors la question off, c'est une question qui est totalement off, c'est-à-dire que je ne diffuserai pas sur les réseaux, que j'ai posée à Thomas. On a discuté pendant une petite dizaine, quinzaine de minutes. Et je vais poser une question sur sa marque personnelle. Il a une marque personnelle qui est super développée depuis plusieurs années. Et son truc, c'est vraiment la création de contenu. Il est très bon dans la création de contenu sur toutes les plateformes. Et en fait, dans cette question off, il nous explique comment il met le contenu au service de son personal branding. Et comme toujours, tu vas voir que son approche est super originale. Si tu veux accéder à ce contenu, le lien est en description. Je te l'envoie tout de suite par mail et je te laisse avec le reste de l'interview de Thomas Burbidge.
C'est complètement une force. En revanche, je pense que y a des endroits où je perds forcément. C'est pas une recette magique.
Ouais.
Quand tu vois, tu parles de ce
quel est le prix à payer.
Bah, tu parles de ce fameux conseil de il faut être clivant pour attirer le regard, etc. Et les réseaux sociaux sont effectivement construits comme ça. Plus t'es clivant, plus tu vas être poussé parce que le fait d'être clivant, ça va créer du débat. Le fait de créer du débat, ça va créer de l'interaction. Et donc les algorithmes vont pousser. Et moi, je cherche toujours l'équilibre. Donc là, par exemple, ce matin même, je commente un post d'un de nos amis en commun, Valentin Decker, qui, lui, adore aller chercher la petite graine et être un peu « je te cherche ». Donc, il a fait un post en disant « chercher son alignement, c'est du gros bullshit. Il faut être dans l'action et se faire violence. » Et du coup, moi, c'est typiquement le genre de post que j'adore parce que moi, je peux venir avec mon discours de l'équilibre et de la nuance, de dire bah, « en fait, ça dépend, individualisation, tout ces... » Enfin, bref, plein de d'arguments que j'avance sur le sujet. Mais du coup, je ne bénéficie pas de l'effet viralité du positionnement clivant. Et je n'ai pas envie d'aller le chercher non plus. Donc, je pense que je prends peut-être plus de temps à toucher les yeux et les oreilles des gens. Et en même temps, je pense que c'est rafraîchissant, dans un monde où tout le monde s'oppose et se tape dessus, d'avoir la voix de ce que je considère être la sagesse du centre. Pas le centre politique, parce que ça, c'est une lubie. Mais le centre, dans le sens où on cherche l'équilibre dans les réflexions, où en fait on met de la nuance, de dire bah, ça dépend. Tu vois, c'est l'exemple que Valentin prend là sur l'alignement et le passage à l'action. En fait, ça dépend de la matière première que tu as. Passer à l'action et aller faire des trucs et te faire violence pour mettre les choses dans la matière, bah, c'est hyper important pour des gens qui manquent de matière première et de connaissances d'eux, pour ensuite se dire bah, tiens, avec tout ce que j'ai testé, je vais pouvoir trouver la voie qui me parle dans mon business. Mais pour des gens qui ont 50 ans de bouteille, de la matière première, ils en ont à la pelle, eux, tu leur dis de continuer de juste charbonner, ben en fait, ils vont aller, aller dans ce qui est facile pour eux, ce qui n'est pas forcément le plus épanouissant. Donc ces gens-là, ils ont peut-être plus besoin de ce questionnement de fond de qu'est-ce que j'ai envie de faire, à quoi j'ai envie de contribuer, qu'est-ce qui est important pour moi, pour ensuite mettre ça dans la matière. Mais c'est un équilibre, donc ça dépend vraiment de le parcours de la personne, où t'en es, enfin, faut faire du sur-mesure. Et c'est ça que je reproche souvent dans nos milieux de l'accompagnement et du coaching, c'est que On cherche des méthodes toutes faites et des vérités absolues, alors que ça n'existe pas, ça n'existera jamais, ça n'a jamais existé. Tout se passe dans la nuance.
Et tu vois, c'est intéressant que tu parles de ça, parce que finalement, on recherche, en fait, l'être humain quand même recherche des directives,
ouais.
Une sorte de voie, un phare au loin pour essayer de prendre des décisions. Et je me souviens qu'un jour, on était justement au salon de la micro-entreprise
l'an dernier,
il y a quelques mois.
Septembre.
Et un jour, à un moment donné, tu me présentes un gars qui s'appelle Patrick. et tu me dis, Patrick, c'est mon mentor.
Ouais.
Et je me souvenais que tu m'avais déjà parlé de Patrick. Et en fait, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu comment tu as rencontré ton mentor, pourquoi tu le présentes comme ton mentor. Et pourquoi c'est important pour toi d'avoir un mentor, ou en tout cas d'en avoir eu un à un moment donné dans ta vie.
J'adore cette question. Comment j'ai rencontré Patrick? Patrick, c'est du coup le fondateur d'une boîte qui s'appelle Lab Company.
Patrick comment?
Patrick Charny. Épisode 5 de Young World and Freelance, où je l'ai interviewé, si ça vous intéresse.
Le podcast de Thomas, pour celles et ceux qui ne savent pas.
Petit placement produit. Du coup, Patrick, je le rencontre quand je suis en Master 2. C'est une autre élève de mon master qui a été en stage dans son entreprise qui s'appelle Lab Company, qui est du coup un collectif de freelance. Donc le statut de beaucoup de collectifs est le même statut que Lab Company. Il y a une entreprise sous une forme juridique diverse, là c'est une SAS. Et ensuite, plein d'indépendants qui facturent via l'entreprise centrale pour travailler avec des clients à plusieurs. Comme une agence, mais tout le monde est à son compte et tout le monde bosse sur les projets qu'il choisit. Et donc je rencontre Patrick en Master 2 via mon ami de ma classe qui a organisé une petite réunion avec les gens qui réfléchissaient à se lancer à leur compte. Donc on était 4-5 de ma classe, sous l'impact que moi j'étais déjà à mon compte et je faisais beaucoup de prosélytisme sur le sujet. et du coup on se pose et il commence à nous raconter le truc et tout. Et moi j'étais à fond, donc j'ai foncé dans le truc en mode trop bien, j'ai pas envie d'être tout seul quand je me lance à la fin de mes études full time, donc je vais bosser avec Patrick. Et il m'a appris énormément de choses, parce qu'au début, tu vois, moi, quand je me suis lancé, j'ai vu une pub de Crème de la Crème, donc cette plateforme de freelance que tu connais très bien parce que tu as travaillé chez eux.
J'ai travaillé chez Crème de la Crème quelques années.
Et à l'époque, je vois la pub quand ils ciblaient encore les étudiants, donc au tout début de Crème de la Crème, en mode, prends un statut, facture d'émission à côté de tes études, t'as un savoir-faire à faire valoir.
C'est à portée de main.
Vas-y. Donc je suis en mode, ah ben... vas-y, j'y vais. Donc, j'ouvre leur petit tuto, je remplis les cases en mode je me pose pas de questions. Ah, boum, j'ai un statut. Et j'ai commencé à facturer la mère de ma copine de l'époque pour gérer les réseaux sociaux de leur boîte. C'est une boîte qui s'appelait l'école de coaching, qui s'appelle encore l'école de coaching de Paris. Et du coup, en commençant à bosser avec Patrick, bah, c'est un gars qui a eu 2 agences de com, qui est à son compte depuis 20 ans. Enfin, il a de la bouteille.
Et à quel âge, à peu près?
Je sais pas, il doit avoir presque 55 ans. Je sais même, je crois que j'ai jamais vraiment su son âge.
Il les fait pas. Hein.
En tout cas, c'est un homme plus âgé qui pourrait avoir l'âge, qui pourrait être mon père, quoi.
Oui.
Et du coup, en commençant à bosser avec Patrick, bah, en fait, je commence à prendre un peu les codes de qu'est-ce que c'est avoir sa boîte. Facturer, comment tu gères ton temps. Il m'a appris des trucs de base, genre, bah en fait, tu ne peux pas facturer 100% de ton temps quand tu es à ton compte, donc tu divises en 3. Tu as une partie admin, tu as une partie marketing, tu as une partie facturable aux tes clients. Donc sur un tiers de ton temps, il faut que tu finances 100% de son temps. Et c'est comme ça que tu mesures tes tarifs. Enfin, voilà, j'ai appris des trucs vraiment basiques comme ça avec lui.
Ouais. Quel est le conseil qui t'a le plus marqué ou que tu n'as vraiment jamais oublié? Mis à part ce conseil-là qui est simple et efficace, mais quel conseil ou le...
Je pense que ce n'est pas un conseil, c'est plus une observation de comment il fonctionnait qui était très, très, très humain. Genre, ce n'est pas un businessman auquel on peut s'attendre. Genre. D'ailleurs, c'est drôle parce que l'histoire fait que maintenant, il est devenu énergéticien. Donc, il y a cette sensibilité qui a toujours été là, tu vois.
Okay.
Et je pense que je ressentais à l'époque. Mais c'est quelqu'un d'incroyablement posé. Genre, tu rentres dans la même pièce que lui ou tu commences à discuter... tu te calmes. Et donc, quand on allait faire nos rendez-vous clients ensemble, voir sa posture, comment il se comporte, comment il parle, comment il reformule, tout de suite, ça faisait que la personne en face était dans un cadre beaucoup plus confiant. Et genre, t'as envie de lui faire confiance.
Ouais.
Ce mec, t'as envie d'être embarqué quand t'es dans la pièce avec Patrick. Et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup marqué sur la posture relationnelle qu'on entretient entre des gens qui travaillent ensemble et entre toi et tes clients, Là où souvent on s'attend, tu vois, il y a une espèce de jeu de pouvoir, moi vs mon client, faut que je gagne la négo et tout. Lui, c'était pas du tout son mode opératoire. Et je pense que ouais, ça a beaucoup influencé comment moi je me comporte aussi avec mes clients et comment je me comporte à l'époque.
Tu vois, tu m'as parlé un jour de modeling.
Oui.
Eh ben, j'ai l'impression que c'est ça en fait, c'est du modeling. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est que le modeling et ça vient de Tony Robbins, je crois, non c'est
pas... Ça vient de Tony Robbins, effectivement, et ça répond à la question que tu me posais tout à l'heure de pourquoi un mentor c'est important. Et ça parle aussi de ce que je disais par rapport à Valentin sur la matière première. Pourquoi est-ce que, à mon sens, un mentor c'est important? C'est comme tu disais, les êtres humains, on cherche des repères. Surtout quand on s'attaque à des sujets qu'on ne connaît pas ou ne comprend pas, genre tu te lances à ton compte, t'as jamais fait ça, tu cherches des repères, des espèces de guides pour te mettre dans des rails où tu te racontes c'est plus ou moins la bonne direction. Tony Robbins, quand il parle de ça, il dit la meilleure manière de faire quelque chose, c'est trouver quelqu'un qui l'a déjà fait, comprendre comment il l'a fait, suivre la stratégie, et en apprenant sur la route, parce que tu passes à l'action en faisant les trucs comme la personne, tu te rends compte de, dans cette stratégie, qu'est-ce qui marche pour toi, qu'est-ce qui marche pas. Et du coup, là, on rentre dans ce fameux chemin de plus je me connais, plus je peux faire des actions qui ont du sens pour moi parce que je me connais. Et je pense que c'est une réflexion fascinante, et Patrick a joué ce rôle pour moi, et c'est pour ça que j'en parle comme mon mentor, c'est de me dire, je suis à mon compte, je fais n'importe quoi à l'arrache depuis un an parce que j'ai pas d'exemple à calquer. Patrick a été le premier exemple sur lequel j'ai pu me calquer pour faire des choses dans la matière. Et en faisant des choses dans la matière, j'ai acquis cette matière première dont on parlait tout à l'heure, qui m'a permis de mieux me connaître moi et mieux choisir qu'est-ce que je veux dans ma boîte, qu'est-ce que je ne veux pas, comment je veux me comporter, comment je ne veux pas me comporter, qu'est-ce qui fonctionne pour moi, qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour moi. Et des choses qui fonctionnaient pour Patrick, qui ne fonctionnaient pas pour moi, et vice-versa.
Et le modeling, et ça voilà. Peut être évidemment sur quelqu'un... qui peut être très proche de toi, comme Patrick, voilà.
Ou quelqu'un que tu connais ni dedans ni dev, ouais, bien sûr.
Et je me souviens que, à un moment donné, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à un moment donné, tu avais été très inspiré par ce que faisait David Laroche.
Ouais.
Pas forcément par le personnage, mais plus par sa façon, peut-être, de partager, d'avoir de créer des expériences, justement.
Ouais.
Et je crois même que tu étais allé dans un séminaire.
J'en ai fait plusieurs.
Ça ressemble à quoi un séminaire de David Laroche?
J'en ai fait deux. J'ai fait son séminaire Entrepreneur d'exception, je crois qu'il s'appelle le premier, et celui d'après s'appelle Excellence Business et Finance. En fonction du nombre de personnes, le mood change. Donc, Entrepreneur d'exception, on était 400. Donc, c'est. Grande salle, c'était un hôtel proche de l'aéroport, des chaises en rang d'oignon, lui sur scène, mais d'ailleurs il reste jamais sur scène, il marche partout et il fait son truc. L'autre, c'était à Marbella dans un hôtel un peu luxueux, on était une cinquantaine, et là c'était des tables rondes où on était en équipe de 4-5 par table. Globalement, c'est une expérience où tu as de la théorie, des exercices pratiques individuels, puis tu pars pendant une heure pour bosser en sous-groupe, puis tu reviens. J'ai pas mal modélisé ce mode d'apprentissage que je trouve plutôt pertinent. Après, chaque personne qui fait ça a ses sensibilités. Mais ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que sur cette histoire de continuer avec le modeling et le fait d'avoir des mentors, c'est que du coup, chaque personne t'accompagne un peu sur ton chemin. Et ça, c'est un truc que j'aime bien dans la nuance encore, c'est que David Laroche, par exemple, Tony Robbins aussi, sont des personnages qu'on peut démoniser. Et sont des personnages qui sont parfois très vivement critiqués, ou à l'inverse, parfois, les gens sont subjugués par ce genre de personnages. Et moi, j'aime bien la pratique de l'équilibrage, qui est de se dire, OK, si je trouve que quelqu'un est un démon, ou si je trouve à l'inverse que quelqu'un est un dieu, c'est que je ne vois qu'une partie de la réalité. Soit je vois que les avantages, soit je vois que les inconvénients, et que la vérité, elle se trouve toujours dans l'endroit où je vois autant d'inconvénients que d'avantages, et donc émotionnellement, je suis équilibré. Si je déteste quelqu'un, c'est que je vois trop les inconvénients. Tu vois, l'indicateur de mon émotion de « je la hais », ça montre qu'en fait, j'ai des œillères et je vois qu'une partie de la réalité. Et moi, j'adore me dire ça parce que du coup, ça me permet de dire, OK, des gens comme un David Laroche, il y a des trucs qui fonctionnent. Il y a des trucs qui sont intéressants. Et tant que je le déteste ou tant que je l'aime beaucoup trop pour ce qui est raisonnable, je me prive d'avoir des infos plus factuelles et plus à mon service sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, et donc nourrir cette machine de connaissance de moi pour l'implémenter dans ma vie.
Par exemple, tout ce qui est les gens en fait qui ont fait des bêtises dans leur vie, comme les escrocs, ce genre de choses.
Ah ben ça, je sais que on aime ces conversations.
Ça m'intéresse parce qu'en fait, on a eu souvent des conversations là-dessus.
Ouais.
En fait, si on arrive justement à rééquilibrer, comme tu le dis, notre perception et à se dire ben voilà, il y a des choses terribles qu'ont fait ces gens-là, mais en même temps, qu'est-ce que je peux apprendre aussi, qu'est-ce que je peux retirer ces expériences. Si on arrive à faire ce travail. Mais il y a des pépites qui sont dingues, surtout quand on entreprend, quand on crée du contenu, quand on est dans une démarche un peu. Et c'est vrai que oui, je me rends compte que c'est dur de faire ce rééquilibrage.
Parce que c'est très émotionnel et ça parle de notre identité aussi.
Il y a un gars qui s'appelle Marco Mouli.
Oui, tu m'en as pas mal parlé, ça, dans nos appels.
Il a fait une escroquerie énorme à la taxe, à la TVA.
Taxe carbone, c'était
ça. Taxe carbone, et donc du coup, il reversait pas la TVA à l'État, donc grosso modo, il a pris de l'argent public, donc notre argent. Donc, mec, pas très recommandable. Mais en même temps, quand tu l'écoutes, tu te rends compte qu'il a une philosophie de vie, une façon de réfléchir, une façon de voir le monde qui est tellement différente de la majorité des gens. Quand tu passes, il s'exprime assez mal, il est un peu maladroit, il est un peu show-off, un peu flambeur. Mais quand tu regardes un petit peu et que tu écoutes vraiment attentivement, tu te dis, tiens, peut-être que je peux en tirer quelque chose. Alors que la majorité des gens voit ce gars-là pendant 2 minutes, ils disent ok, lui disqualifié, de toute façon il a fait 10 ans de prison, terminé. Et je pense qu'on gagnerait tous à se dire ok, qu'est-ce que je peux apprendre des gens qui de prime abord sont pas recommandables en fait,
ou d'ailleurs qui sont à l'inverse total de ce en quoi je crois.
Ouais.
Parce que ça, je trouve que c'est un truc intéressant qui me parle aussi de ce sujet de l'équilibrage, c'est de se dire si je suis déséquilibré sur un point de vue, c'est qu'en fait, peut-être j'ai pas été assez creusé dans l'autre. Et ça, j'aime bien parce qu'il y a une réflexion similaire que j'avais croisée une fois sur les tests de personnalité. Et une personne dont j'ai suivi le travail pendant un moment, qui est un Américain qui s'appelle Sam Ovens, qui utilisait les tests de personnalité pour voir ce vers quoi il était trop déséquilibré. Donc je prends une caricature, il faisait le test. Si le test lui disait « Ah ouais, toi, t'es très dans le contrôle, dans les chiffres, dans les faits », il disait « Oh, je suis un peu trop déséquilibré là-dessus, faut que je revienne plus sur prendre des décisions intuitives avec mes émotions ». À l'inverse, si le test de personnalité, quand il le remplissait, disait « Toi, t'es quelqu'un de très intuitif, tu sens les choses et tout », il est en mode « Oh là là, je suis un peu trop déséquilibré, faut que je revienne sur du factuel et du chiffré ». Et ça, j'aime bien. Après, ça veut dire que c'est une philosophie de vie qui dit « On doit être équilibré ». On pourrait challenger cette philosophie et dire bah, pourquoi l'équilibre est important.
Est-ce qu'on doit travailler nos forces ?
Est-ce qu'on doit travailler
nos faiblesses ? Rééquilibrer ?
C'est des réflexions philo finalement. Et ça y est, d'ailleurs, j'adore voir l'influence de la philosophie dans le business. Mais du coup, dans cette même manière, si je suis convaincu que, prenons un exemple du moment, c'est une bonne chose de décaler l'âge de la retraite de 62 à 64 ans avec toutes les autres merveilleuses propositions de ce projet de loi que personnellement je ne cautionne pas, si je suis vraiment convaincu que c'est la meilleure chose à faire, peut-être qu'il est temps que j'aille écouter des gens brillants qui défendent bien leur point de vue à l'inverse total. Et là, je trouve l'équilibre. Parce que ça aussi, je pense que c'est un beau truc des réseaux sociaux, c'est qu'on est surentraîné à se camper de plus en plus sur nos positions et à être de plus en plus clivé et fuir la nuance de « Ok, si j'écoute des gens brillants de chaque côté du spectre, ça me permet d'avoir plus de données et de ressources pour avoir un vrai avis. »
Encore une fois, le pouvoir de la nuance. Quoi.
Franchement, ouais. En tout cas, c'est en ce moment et depuis les dernières années quelque chose dans lequel je crois vraiment et qui est présent dans, je pense, la meilleure invention humaine pour se rapprocher de la vérité, qui est la démarche scientifique. C'est vraiment présent dans la démarche scientifique. C'est-à-dire que une recherche ou quelque chose que la science trouve n'est jamais vraiment admise tant que la communauté scientifique entière ne valide pas, par le truc. Donc, tu as vraiment ce côté, les pairs doivent valider. Et souvent, les pairs sont des gens qui ont des intérêts opposés, qui ne sont pas du tout dans la même école. Mais quand tu as un spectre large des pairs scientifiques qui disent « Ok, ça, on est d'accord avec la manière dont ça a été mené, la méthodologie est bonne, l'hypothèse est bonne », ça, on peut considérer que c'est davantage la vérité. Alors que si tu as un sous-groupe de personnes qui ont baigné dans le même monde tout le temps, qui ont la même expérience de vie et tous le même avis depuis toujours, si eux ensemble décident que la vérité c'est ça, ben en fait non, c'est pas vrai, parce que tu te prives de 25 milliards d'autres manières de voir le monde, quoi.
C'est ça. Je crois que je vais l'appeler le pouvoir de la nuance, cet épisode, hein. Franchement.
Peut-être, mais on ne sait pas ce qui va sortir par la suite.
On ne sait pas, il y a d'autres choses. Je vais parler avec toi d'un sujet un petit peu lié d'ailleurs à ce qu'on se disait au tout début sur le fait que tu aies choisi aussi d'avoir, on va dire, une vie pas forcément tranchée, quoi, d'avoir une expérience de vie un peu différente. Après le Covid ou pendant le Covid, 2020, t'es parti de Paris.
Juste avant.
T'es parti de Paris et tu t'es mis au vert. Tu t'es mis au vert, comme beaucoup de gens d'ailleurs, beaucoup peut-être de personnes qui nous écoutent qui en fait sont partis des grandes villes et se sont mis au vert à la campagne. Mm-hmm. Et en fait, aujourd'hui, c'est ta vie, quoi. Aujourd'hui, mm-hmm. c'est ta vie. T'es où ? T'es en Corrèze ?
En Corrèze, sur une petite colline dans un village de 900 000 habitants. Entre 900 et 1000, pas 900 000.
Ouais. 900 000 habitants.
C'est un grand village, ouais. Ça. Non,
c'est
Bordeaux,
quoi.
T'es entre 900 et 1000.
Et qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton business et dans ta vie même?
Je pense qu'une des premières prises de conscience que j'ai eues en faisant ça, je ne l'ai pas eue en étant à la campagne. Je l'ai eue quand je suis revenu à Paris pour la première fois après ça. Donc j'ai fait je suis parti juste littéralement 3 jours avant le premier confinement, donc c'est mars 2020. Je suis revenu au mois de septembre pour virer mes affaires de l'appart où j'avais été avant et les emmener à la campagne, et je suis revenu genre une semaine et demie, et je me suis dit comment j'ai fait pour bosser dans cette ville, parce que à chaque fois que je viens à Paris, et c'était complètement l'expérience que j'avais en vivant à Paris, ma vie n'était qu'un enchaînement de déplacements et de moments sociaux. C'est-à-dire que je me souviens très bien ma vie de freelance à l'époque. J'étais toujours en métro ou sur les petites trottinettes électriques à passer de rendez-vous en rendez-vous et à produire une heure par-ci, une heure par-là entre les rendez-vous. Et je me dis, mais comment j'ai fait pour produire quelque chose qui a de la valeur en ayant aussi peu d'espace mental disponible pour moi, quoi. Là où la ville, t'es toujours attaqué, t'as toujours des propositions. Moi, le premier confinement, je me sentais libéré que personne ne me propose quoi que ce soit et que j'ai pas besoin de dire non ou oui, enfin il n'y a pas d'argument, quoi. C'est juste, on est chez nous, on peut rien faire. Et c'est depuis le premier confinement que j'ai produit les trucs les meilleurs. Genre, premier confinement, j'étais en mode ok, j'étais à ce moment-là, je faisais des cycles de conférences dans les coworking. Une de mes conférences et un atelier que j'avais commencé à vendre, c'était sur la construction des offres en freelance. On se fait confiner, je me suis dit bon, je peux pas faire d'atelier en présentiel, ça va devenir une formation en ligne. En une semaine et demie, j'ai tombé une formation en ligne, ça faisait un an et demi que c'était une idée, tu vois. Donc je pense que le premier truc que ça m'a apporté, et que ça m'apporte encore maintenant parce que j'ai un bureau à moi dans ma maison, c'est...
Du focus.
J'ai le cadre de travail le plus qualitatif que j'ai jamais eu de ma vie, et je pense que ça m'aide à aller de plus en plus en profondeur dans mes réflexions et dans ce que je crée, et peut-être même à aller plus vite, je sais pas, mais en tout cas j'ai un environnement qui est vraiment au service de la qualité et de la profondeur du travail, et ça je pense que c'est impossible de l'avoir en ville. Et vraiment je mesure mes mots quand je dis je pense que c'est impossible de l'avoir.
Parce que moi je suis parisien, comme tu sais, enfin oui. je suis pas du tout parisien, je suis toulousain.
Oui, en tout cas tu habites à Paris.
J'habite à Paris. et c'est vrai que finalement ce focus et cette qualité de travail, j'arrive à la trouver. Mais c'est intéressant comme point de vue, effectivement, le côté moi j'aime bien cette effervescence aussi qui me porte,
ça stimule
un peu, tu vois.
Ouais. Ça stimule, mais je pense qu'encore une fois l'important est la nuance et l'équilibre. On n'a pas tous et toutes besoin du même degré de stimulation. Et je pense que quand tu es en ville comme à Paris par exemple, on est sous une picouse, genre c'est comme si tu étais drogué à cette stimulation. Et quand tu quittes, et je sais que pour cause, je connais des personnes qui ont vécu, grandi à Paris. Quand ils quittent la ville et se retrouvent comme chez moi, où t'as un silence complet, leur système nerveux pète un câble, juste parce qu'ils sont pas habitués. Dès qu'il y a plus le bruit des sirènes et tout, et voilà, ouais. Nous sommes des êtres humains et que nous avons un système qui nous habitue à nos conditions. Dès que les conditions changent, t'as une partie de le système nerveux qui c'est pas normal.
Ouais.
Et ça, c'est pas normal pour nous d'être dans un système nerveux où on est constamment tout le temps stimulé.
Sous perfusion un peu.
Et
intéressant.
Et donc, j'ai besoin de cette stimulation aussi. Quand je viens à Paris et que je fais des choses comme ça, ou que je vois plein de gens, là, genre là, dès que je viens à Paris, j'enchaîne les rendez-vous, je vois plein de trucs, plein de personnes. Et ça me fait du bien. Mais c'est pas durable, en fait. Et du coup, j'ai vraiment besoin des deux vitesses, et je pense qu'on a tous et toutes besoin de cet équilibre. Et la preuve, les gens partent en vacances de Paris, et ils quittent et ils déconnectent, et il y a ce grand mouvement du droit à la déconnexion, parce qu'en fait, on en a besoin. Notre système nerveux, notre psychologie a besoin de poser. Et je pense que une des raisons qui fait que il y a autant de burn-out depuis les dernières années, et c'est aussi dû à ça, en fait, c'est que nos modes de vie ne sont plus supportables.
Ne sont plus adaptés, en fait, à notre façon de fonctionner.
Ouais.
En gros, il faut justement de la nuance, il faut de l'équilibre, en fait.
Je pense
qu'il y a un déséquilibre. Et tu vois, tu parlais de ton mode de... Enfin, du fait d'avoir choisi de travailler là-bas, en Corrèze,
ouais.
Que ton travail et ton mode de vie, il allait être en Corrèze. Et en fait, c'est un sujet qui revient beaucoup dans ce que tu fais. Tu disais qu'on a 80 ans, grosso modo, devant nous.
Oui.
plus ou moins 80 ans. Et que la grande majorité du temps, finalement, c'est le travail, quoi.
Ouais.
Sur ces 80 ans, ça va être une majorité de travail.
C'est à peu près 10 000 jours.
Ouais, 10 000 jours. C'est énorme. Et du coup, il faut quand même choisir de manière très fine ce qu'on a envie de faire. Et c'est vrai que c'est des réflexions qui sont assez récentes, parce que pendant des siècles, depuis que en fait, le travail existe, les gens ne se posaient pas trop la question, quoi. Il fallait travailler pour gagner sa vie, ouais. Et puis ensuite, voilà. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on peut se poser cette question, et j'ai l'impression que toi, tu mets le doigt là-dessus.
Je pense que le Covid a joué un énorme rôle là-dessus aussi, c'est que... Et pareil, ça c'est quelque chose que le rythme effréné de la ville, et notamment de Paris, te coupe de ça. Et je pense que la première fois que les gens se sont retrouvés chez eux, face à eux-mêmes, pendant un temps indéfini, tout cet espace pour observer ses pensées et être avec soi-même, ça secoue. Parce que tu te dis, putain, en fait je suis en pilote automatique depuis peut-être 30 ans, et que les moments d'évasion, c'est des moments de survie, c'est pas des moments de prise de recul, c'est des moments de survie. Et là, tu commences à te dire « Ah, waouh !» Alors qu'effectivement, quand on se pose la question et qu'on se rend compte de ce qu'on se dit là, je vis 80 années. Je vais passer la première grosse vingtaine à me préparer à la suite, c'est-à-dire apprendre comment fonctionne le monde, me former à un métier, à des compétences. Donc, c'est la phase préparatoire au travail. Puis, il y a la phase travail. Puis, il y a la retraite qui est, entre guillemets, pensée comme la récupération du travail et le fait de profiter enfin des fruits.
Ouais.
Sur une période où on est en mauvaise santé, on a moins d'énergie.
Moins d'énergie, moins de vitalité.
Et ça, c'est une réflexion qui est à la fois individuelle, mais aussi, je pense, structurelle et politique. C'est de se dire, est-ce que la meilleure création de l'être humain, c'est un système qu'on entretient pour seulement en profiter au moment où notre corps est dans le pire état de santé.
Ouais.
Et en fait, tu vois, quand je prends du recul sur ça, je me dis, mais on est vraiment débile, quoi.
Ouais.
Et on se bat pour maintenir ce système en se disant qu'il n'y a aucune autre manière. Et c'est pour ça que la politique m'intéresse de plus en plus dans ce que je fais avec mon travail. C'est de me dire qu'en fait, en travaillant, on a le choix. On peut soit choisir de maintenir les choses comme elles sont, soit choisir d'essayer de les changer. Ouais. Si on résume, il y a ces deux choix, avec des nuances entre les deux. Mais globalement, c'est est-ce que je suis en train d'avancer vers du changement pour moi, pour les autres, ou est-ce que je suis en train de me battre pour maintenir pour moi et pour les autres ?
Comment t'accompagnes des clients justement sur cette voie-là ?
Pour moi, il y a trois niveaux de réflexion. Donc la question centrale, c'est j'ai 10 000 jours devant moi. Ils sont sûrement entamés pour toutes les personnes qui écoutent. Donc il en reste un certain nombre. Qu'est-ce que je fais des jours qui restent ? C'est quoi la finalité que je veux donner à toute cette putain d'énergie qu'on met dans notre taf, quoi ? Enfin, hier soir, j'ai dormi chez une copine avec qui j'étais à l'école à Dauphine. Elle se lève 7h45, 8h15, même pas 8h05, elle part au travail. Donc elle a 15-20 minutes pour elle le matin. Et en arrivant le soir chez elle, elle est rentrée chez elle 19h45, 20h. Tout le reste du temps, c'était au travail à avoir en tête les réflexions et les enjeux que quelqu'un d'autre lui dit d'avoir dans sa tête. Ça pendant 45 ans de ta vie, 60 ans de ta vie, en fonction de la durée de ta carrière. Donc déjà, il y a cette question. il me reste un certain nombre de jours sur les 10 000, voire sûrement plus. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ça ? Et là, ensuite, il y a trois niveaux de réflexion qu'on essaye d'apporter à nos clients. Qu'est-ce que je fais de ça pour moi ? Moi, j'aime bien dire que le travail est un outil de transformation. Ça nous permet de changer la matière. Quand on écrit un post LinkedIn, on part d'une page blanche et à la fin, on a un nombre de caractères où on a dit quelque chose. Donc, on a transformé la page, quoi. On a transformé l'état de notre réalité. Donc, la première question, c'est qu'est-ce que je fais grâce à mon travail qui change la réalité que j'ai envie de vivre ? Exemple pour moi, j'ai envie de construire un travail qui me permet de vivre au fin fond de nulle part à la campagne, en groupe avec les gens que j'aime, et de travailler X heures par jour, enfin en tout cas d'avoir accès à la forêt tous les jours. Donc j'ai conçu consciemment la manière dont ma boîte fonctionne pour cet objectif-là. Ce faisant, je transforme ma réalité grâce à mon travail. Donc ça, c'est le premier niveau. Le second niveau, c'est pour les autres, c'est-à-dire en premier lieu mes clients. Qu'est-ce que j'ai envie de créer comme transformation avec mon travail et avec mon énergie et mes 10 000 jours pour mes clients ? Et donc là, c'est une réflexion globalement de ce que tu apportes avec tes services, ce que tu apportes avec tes offres, ton marketing, tout ce que tu fais dans ta boîte. Et puis ensuite, ça, mis à l'échelle de 10 000 jours, donc effet composé, imaginons je passe l'entièreté de ma carrière à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire aider des indépendants à être plus alignés avec ce qu'ils font dans leur entreprise et avoir le niveau de réussite que tout le monde se souhaite d'avoir. Si je fais ça pendant 40 ans, il se passe quoi au niveau macro ? Quelle transformation j'apporte avec mon travail dans la société, le monde qui m'entoure, les écosystèmes qui m'entourent ? Et moi, je mets de plus en plus de termes sur ces écosystèmes, les écosystèmes humains. Si je bosse et je bosse avec les commerçants de la ville de Rouen, quel est l'impact que je peux avoir sur les commerçants et la ville de Rouen, l'impact du commerce local, enfin voilà. Ouais. Et de la même manière, quel impact j'ai sur les écosystèmes naturels, donc la faune, la flore, l'écologie, tout ça. Et ça, c'est une question que je trouve hyper intéressante, qu'on peut traduire sous un autre angle en disant à quoi ressemble un monde où ta boîte n'a plus aucune raison d'exister. Et là, tu te connectes à ce que tu as vraiment envie de faire, quoi. Et
quel a été le cheminement pour toi dans cette réflexion, en fait ? Comment t'es arrivé à te poser ces questions-là ? Parce qu'effectivement, il y a eu tout ce cheminement de l'indépendance que tu nous as expliqué, mais la partie, je dirais, quasiment militante que tu es en train de revêtir petit à petit dans ton business, que tu es en train de transmettre aussi à tes clients, en tout cas aux gens qui te suivent, comment t'es arrivé à cette réflexion-là, de te dire qu'il faut aller au-delà ? En tout cas, que c'est ton combat, c'est de te dire qu'il faut que les gens aillent au-delà de simplement gagner sa croûte, quoi,
j'ai envie de dire. J'ai envie de me raconter que c'est le processus d'expansion de la pensée naturelle. Un peu comme la pyramide de Maslow, quand tu remplis tes premiers niveaux d'épanouissement matériaux, ensuite tu peux aller vers d'autres. Donc ce que je me raconte, c'est que quand on se lance à son compte, le premier enjeu qu'on recherche, c'est un enjeu individuel. On se lance pour une raison particulière. Je veux profiter plus de mon temps, plus de mes enfants, tout ça. Mais une fois que tu as ça, l'aventure ne s'arrête pas.
Ouais. Une fois que la survie est assurée.
Une fois que la base est là, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Et pour moi, je pense que c'est ça qui s'est passé. C'est, je suis à mon compte, je fais de la stratégie de marque, ça se passe bien. J'arrive à un stade où je me dis, mais est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre aux gens avec mon énergie et que je veux faire pour les gens ? Peut-être moins. Et là, je corrige et je pivote en mettant plus l'accent sur ce que je fais pour l'accompagnement, parce qu'en fait, ce qui me fascine, c'est la pédagogie. Ce que j'ai envie d'apporter aux gens, c'est les prises de conscience que j'ai moi-même eues et qui me permettent de me sentir aussi bien dans ma vie maintenant. Et donc là, c'est la prochaine couche de la transformation pour les autres. Et une fois que tu commences à bien mener ça, en fait, tu te rends compte que ce que je fais, ça a des externalités positives ou négatives. La manière dont je travaille, ça a des conséquences au-delà de l'individu en face. Et on se pose la question de, est-ce que j'assume ces conséquences ? Est-ce que c'est ça, quelque part, la trace que j'ai envie de laisser dans ma vie ? Donc je pense, en tout cas j'ai envie de me raconter que c'est le cheminement de pensée naturelle. Maintenant, la question qui vient de ça, c'est pourquoi tout le monde n'a pas ces mêmes prises de réflexion, prises de conscience ?
Ouais.
Et ça, je pense que un des axes de réflexion pour l'expliquer, c'est le conditionnement. Toute notre vie, on est entraîné dans des espèces de petits microcosmes du monde. Si on ne brise pas cette bulle, ça devient la seule réalité qui existe. C'est ce dont on parlait au début, la reproduction sociale, c'est les gens aisés qui restent avec des gens aisés, qui se marient avec des gens aisés, qui restent dans
leur
monde.
Les catégories, les castes.
Exactement. Et je pense que le conditionnement qui vient de là, qui, en fait, c'est quoi le conditionnement ? C'est pour dire, pour avoir de la valeur, tu dois être comme ci, comme ça, tu dois penser comme ci, comme ça, tu dois te comporter comme ci, comme ça. Ou alors, si tu ne le fais pas, tu seras évincé du groupe social, tu seras moqué, tu seras rejeté. Et bien du coup, ça, c'est tellement puissant dans certains environnements que tu te conformes. Et ça, c'est notre beau petit cerveau bien ancestral d'homme des cavernes qui est en mode, si je suis évincé du groupe social, ça veut dire que je suis seul dans la savane et je crève parce que bah, personne ne me protégera quand je me ferai attaquer.
Parce que ce qu'on entend beaucoup quand même, c'est quand on est entrepreneur, aller toucher du doigt les sujets politiques, ce qu'on entend, c'est que ça peut être, entre guillemets, préjudiciable, parce que d'un coup, on réduit notre marché. Mmh. Un peu, c'est Michael Jordan qui disait « Moi, républicain ou démocrate, ils achètent des Jordan. » Et d'ailleurs, il a été vachement critiqué pour ça, parce qu'on attendait, déjà à l'époque, on attendait des...
Qui se positionnent, des
athlètes qui se positionnent. Et pareil, Gary Vaynerchuk, qui est un entrepreneur américain qui est dans les réseaux sociaux et qui est quelqu'un de très intéressant, dit voilà, ne jamais parler de politique. C'est vraiment son credo, surtout aux États-Unis, ouais. C'est très 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 émotionnel la politique. Il y a quelque chose de. Mais on se rend compte que de plus en plus d'entrepreneurs commencent petit à petit à se positionner. Comment t'expliques que pendant longtemps on est vraiment conseillé aux gens de ne pas se positionner, quoi.
J'adore, merci qu'on parle de ça, ça me fait trop kiffer. j'ai envie de savourer cette conversation. Je pense que pourquoi est-ce qu'on le fait pas naturellement, même entre potes, c'est des conversations qui, comme tu dis, sont clivantes, sont très émotionnelles et qui créent parfois des affrontements. Je pense qu'on a déjà là un sujet où on se dit le conflit est une mauvaise chose. Alors que le conflit, dans énormément de cas, ça peut être salvateur parce que c'est l'espèce d'agitation. Comme quand tu secoues une bouteille d'Orangina, disons, bah, ensuite les sédiments, ils se reposent. Et parfois, il y a besoin que les sédiments se reposent pour se remettre dans le bon ordre. Même dans un couple, parfois, passer par un conflit, ça nous permet ensuite de se dire, bah, au moins comme ça, le sujet est maintenant sur la table et on en parle. Parce que s'il reste sous la table, bah, ça pourrit, ça devient vraiment toxique au bout d'un moment.
Du ressentiment, des choses comme ça.
Ça, c'est un truc que j'ai appris d'ailleurs avec David Laroche, c'est conflit égale croissance. C'est le conflit est souvent la voie vers une nouvelle réalité qui était meilleure que celle d'avant. Donc déjà, je pense qu'il y a ce premier point qui est, globalement, il y a une grosse aversion au conflit, et donc les sujets qui peuvent créer le conflit, on va les fuir. Ça, je pense, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est que la politique est un sujet très identitaire. Je suis de gauche, je suis de droite, je suis républicain, je suis démocrate. Et que ces conversations sont plus émotionnelles que rationnelles. Beaucoup de personnes dans chaque caste politique l'est par défaut, par sa famille, par ce genre de choses, sans avoir assez creusé le sujet pour avoir des vrais arguments pour pourquoi je suis de ce bord-là. Et donc, quand ces conversations ont lieu, on peut parfois manquer d'arguments et se retrouver à avoir son identité remise en cause et en question par la conversation. Et ça, c'est inconfortable. Je pense que c'est le truc le plus inconfortable auquel un humain peut faire face, c'est de se rendre compte que tout ce que je mettais derrière la phrase « je suis » est peut-être pas si vrai que ça. Et nous, on a un séminaire dédié à ça avec nos clients de 4 jours, où justement, le but, c'est de montrer que tout ce que je mets derrière « je suis » est quelque chose qui m'enferme un jour ou l'autre.
La plasticité identitaire.
Exactement. Et donc, on peut jouer avec son identité, et en jouant avec son identité, on peut ensuite en fait s'autoriser à faire des choses qu'on pensait jamais faire avant.
Mais tu vois, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais un truc que peut-être tout le monde ne sait pas, c'est que tu es anglais.
Oui.
Donc, tu as la nationalité anglaise.
J'ai la nationalité.
Je suis même pas sûr que tu aies la nationalité française.
Je n'ai pas la nationalité française, j'ai un titre de séjour valable 10 ans.
Donc là, voilà, le plus français des anglais, j'ai envie de dire. Mais du coup, ce que ça t'apporte au-delà de évidemment le fait que tu es bilingue et que ce que ça t'apporte, j'ai l'impression que c'est le cas. C'est justement cette ouverture d'esprit un peu anglo-saxonne qui n'est pas tellement franco-française, tu vois. Ce côté, on peut s'ouvrir, on peut parler, tout ce que tu viens de nous dire là. Est-ce que tu penses que ça a un impact sur ta façon de réfléchir, sur ta façon de penser justement cette ouverture, ou est-ce que tu penses qu'en fait non, c'est juste le monde va dans ce sens-là, quoi. Au-delà des cultures.
Pour faire le lien avec ce qu'on disait sur l'identité, peut-être qu'au début, ça m'a mis dans des bonnes prédispositions. Mais je suis pas attaché à me dire « je suis anglais ». Enfin, peut-être le seul endroit où je le fais, c'est parce que je supporte l'équipe de foot d'Angleterre. C'est le seul endroit où je suis attaché à cette identité-là, tu vois. Je me sens pas être « je suis anglais, je suis surtout pas français ». Je sais pas, je suis un être humain qui vit quelque part sur Terre. On a inventé ce truc des nations et des pays pour faciliter la compréhension du monde.
Ça a 1000 ans à peu près. Hein.
Ouais, voilà.
La nation, ça n'a que 1000 ans sur l'histoire de l'humanité.
Et c'est de la politique d'ailleurs.
Et c'est de la politique.
Et pour revenir sur ça, parce que j'ai très envie de revenir sur la politique, c'est quoi la politique ? C'est la question de comment on organise la vie communautaire entre êtres humains. Comment on s'organise entre nous au sein d'une nation, au sein d'un village, au sein d'une ville. C'est ça la politique en fait. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles, et ça j'ai pas exactement les sources historiques, mais en tout cas c'est une histoire que je me raconte qui je trouve fait sens, c'est que si on dépossède le citoyen moyen du sujet de la politique, c'est plus facile de garder la main sur le sujet politique que si tout le monde est dans le sujet. Et donc je pense que quelque part, le fait que de petit à petit, on évite ce sujet parce que source de conflit, parce que gros questionnement identitaire, parce que plein d'autres raisons qu'on explorera peut-être si on fait un épisode dédié de 3 heures sur ce sujet.
Pourquoi pas ?
Pourquoi pas ? Eh ben, si on évite ces sujets, c'est plus facile de garder la main. Ouais. Et ça se voit là, tu vois, genre le débat sur la réforme des retraites, qui, à mon sens, est fascinant, avec des arguments très intéressants et à creuser de chaque côté de la balance.
Au moment où on enregistre ce podcast, on est en plein dedans.
On est en plein dedans.
Je sais pas quand.
C'est au Sénat en ce moment. Ouais. Qui fait vraiment le travail d'aller vraiment s'intéresser aux arguments de chaque côté ? Personne. J'ai cette discussion à chaque fois. Tu disais, je suis anglais, c'est intéressant pour cette question. Je pense que je suis potentiellement une des personnes les plus impliquées politiquement qui n'a pas le droit de vote. Je suis beaucoup plus impliqué que tous mes potes français sur comment ça fonctionne la politique, qui dit quoi. Genre, j'ai poncé les programmes de tout le monde pendant les élections, je suis allé voir les méthodes de financement de tout le monde. Enfin, vraiment, là, quand le débat des retraites était à l'Assemblée, j'ai regardé entre 5 et 10 heures de live de l'Assemblée. Donc, j'étais sur mon téléphone, 23h30, en train de regarder les gens argumenter comme des débiles. Enfin, c'était enfant, donc c'était la cour de récré parfois. Qui fait ça ? Qui fait vraiment ça ? Si son taf, c'est pas du journalisme ou de la politique.
Pourquoi tu fais ça ?
Parce qu'en fait, je pense que c'est notre devoir. Si tu t'intéresses pas à la politique, ça veut dire je donne la responsabilité à d'autres personnes dont j'ai aucune maîtrise des valeurs de ces personnes, des intérêts de ces personnes. Je sais pas pourquoi elles prennent ces décisions. Mais je décide que le sort de comment ma vie sera organisée est mieux dans les mains de quelqu'un d'autre. Et je pense que tant que ça, c'est la réalité pour plein de gens et qu'on n'en discute pas et que les entrepreneurs qui ont de plus en plus de pouvoir, et on reviendra sur le rôle des entrepreneurs là-dessus si tu veux, ne s'occupent pas de ce sujet, on décide consciemment de donner les clés à d'autres personnes, de décider à notre place de à quoi va ressembler notre vie et de, par exemple, allonger notre temps de travail obligatoire de 2 ans de plus. Mmh. Et ça, on décide, bah tiens, vas-y, décide pour moi, je m'en fous.
Et justement, effectivement, l'entrepreneur, pendant des siècles, depuis 2-3 siècles, son rôle, en tout cas le rôle qui est communément accepté, c'est de créer de la richesse, régler des problèmes.
Créer de la richesse ou régler des problèmes ? Dans quel ordre ?
Je dirais créer de la richesse en réglant des problèmes. Mais du coup, on pourrait se dire que c'est pas vraiment son rôle, en fait, de s'impliquer politiquement. Et je pense que beaucoup de personnes ont ça en tête, en fait, et se disent, mais... tout ça est très siloté. Il y a les partis politiques, l'engagement militant, et puis d'un autre côté, il y a l'entrepreneuriat. Et pour beaucoup d'indépendants et de solopreneurs, l'entrepreneuriat, c'est ce qui les fait vivre. Et donc, ça peut-être qu'il y a une crainte de mettre en porte-à-faux
ce qui les fait vivre.
Ce qui les fait vivre.
Ce qui est compréhensible, effectivement, comme disait Michael Jordan, c'est si je m'implique trop, je me coupe d'une partie du marché. Mais pour moi, c'est la grande question de est-ce que l'objectif, c'est de plaire à tout le monde et de se couper, de toucher tout le marché ou pas ? Et je pense que c'est pour ça que je te posais la question avec un côté un peu rentre-dedans de créer de la richesse ou régler des problèmes. C'est que je pense que l'équilibre, on est devenu déséquilibré là-dessus. Et on a toute une génération d'entrepreneurs qui sont dans le jeu pour la richesse du jeu. et l'opportunité de financière. C'est une distinction que j'avais fait quand j'étais à mon compte et que je faisais mes missions de stratégie de marque, qui était, il y a des entrepreneurs qui créent des startups pour opportunité financière et stratégique, c'est-à-dire j'identifie un marché qui est en pleine croissance, où je peux faire mieux que les autres, donc je vais faire un truc, dans 3 ans je revends, et je me fais mes 4 millions sur ma revente. Terminé. Et il y a des entrepreneurs qui, par leur expérience de vie, sont devenus, enfin, il y a une mission qui se canalise à travers leur travail et ils ne peuvent pas faire autrement que de œuvrer pour ces choses-là. Ça, c'est les gens qui, à mon sens, accèdent à un niveau de ressources, résilience, créativité, enfin, bien plus grand que les gens qui font ça seulement sur le vecteur financier. Et je pense que c'est ces entreprises-là qui sont les plus importantes de notre écosystème économique. Parce qu'en fait, l'argent est un outil, pas une finalité. Ça a toujours été, enfin, c'est le rôle qui avait de, que l'argent a pris quand ça a été inventé. C'est un outil pour faciliter les échanges entre les gens pour des finalités différentes qui sont se nourrir, créer, enfin voilà, plein de finalités. Et je pense qu'aujourd'hui, notre système économique est optimisé pour l'argent comme finalité. Ça se voit d'ailleurs dans comment est-ce qu'on mesure la réussite d'un pays économiquement ? On mesure le PIB. Okay. C'est quoi le PIB ? C'est la somme des transactions. Donc en gros, l'économie nous récompense de faire monter les transactions, peu importe les transactions.
Ouais, quelle que soit la qualité de la transaction. Si on creuse un trou, c'est voilà, on prend une pelleteuse et on creuse un trou.
C'est bien.
Il y a une transaction.
Exactement. Et ouais. C'est bien. Et en fait, je crois que ouais, on a oublié quoi. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important de rappeler que c'est quoi le rôle d'une entreprise ? C'est résoudre les problèmes du monde pour des êtres humains et pour l'écosystème de ces êtres humains. Parce que c'est quoi les meilleures entreprises ? C'est celles qui prennent soin de l'écosystème pour qu'elle dure dans le temps. Moi, j'adore cette réflexion. Il y a des boîtes au Japon qui existent depuis plus de 1000 ans. Des entreprises millénaires. C'est un délire, une entreprise qui existe depuis plus de 1000 ans. Une entreprise qui aujourd'hui se crée et qui veut vivre pendant 1000 ans ne peut pas se dédouaner de la question du changement climatique.
À la question comment être plus résilient.
Ben en fait, si le monde dans lequel je vis se détruit, ben non, mon entreprise ne survivra pas en fait. À part si j'ai des lubies d'aller vivre sur Mars et d'emmener mon entreprise sur Mars comme certaines personnes qui ont ces lubies que je trouve absolument délirantes. Enfin, pourquoi investir tout cet argent pour changer l'endroit où on vit alors que l'endroit où on vit est déjà très bien ? Enfin, ouais. Et en fait, on doit avoir ces réflexions-là parce que nos entreprises disparaissent sinon.
Allons sur ce sujet.
Allons sur ce sujet
des milliardaires.
Allons sur ce sujet.
Parce que je sais qu'on n'est pas tout à fait alignés là-dessus.
En tout cas, qu'on a eu des discussions, nuancées.
Voilà. Nuancées, exactement. Le pouvoir de la nuance, mon cher Thomas. Mais ce qu'on entend beaucoup, c'est, surtout en France, pas forcément d'ailleurs dans le monde anglophone, c'est pour ça que ta double casquette peut être tout à fait intéressante, c'est qu'il y a trop de milliardaires, il faut taxer les milliardaires, il y a un peu cette...
Je ne sais pas s'il y en a trop, il y en a 63 en France.
Ouais, en tout cas, il y a une tension, il y a une friction autour de ces sujets-là qui n'existaient pas il y a quelques années. Et on a tendance, effectivement, à, par exemple, regarder Elon Musk avec un regard un peu interrogatif et se demander est-ce que c'est légitime de vouloir aller sur Mars ? Est-ce que c'est légitime de racheter Twitter pour avoir un moyen de communication et de diffusion d'idées ? Et je trouve que on moralise pas mal le choix des milliardaires. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces réflexions du moment qui, je trouve, sont très récentes, en fait, finalement, autour des milliardaires et de leur place.
Je ne sais pas si c'est récent, parce que je n'étais pas dans les époques passées, mais je pense qu'il y a toujours eu de l'affrontement entre les cercles sociaux. Il y a toujours eu une réflexion sur les inégalités. En revanche, là où je suis d'accord avec toi, c'est que les inégalités n'ont jamais, à mon sens, été aussi grandes qu'aujourd'hui. Le sujet des milliardaires en France est très intéressant, où tu vois que globalement, ce qui se passe de plus en plus, c'est qu'une plus petite partie de la population a une plus grande partie de la richesse. Il y a une BD incroyable d'ailleurs qui s'appelle « Capital et idéologie », qui est extrait d'un livre de Thomas Piketty, qui a le même titre, qui est incroyable. Elle explique comment depuis genre les années 1700 ou 1600, le creux des inégalités se creuse de plus en plus depuis genre le Moyen-Âge. Quoi. Fascinant. Très bonne lecture.
C'est la version BD du Capital de Thomas Piketty. Okay.
Et très facile à lire, du coup, comme c'est une BD.
Ouais, alors que le Capital, personne ne l'a jamais lu.
C'est très. Ouais, c'est plus complexe.
800 pages, un truc comme ça.
Mais la BD est vraiment incroyable.
Ouais.
Et donc, je sais pas si on en parle plus aujourd'hui ou pas. En tout cas, la critique que je pourrais faire, au-delà des autres critiques dont on parlera peut-être, mais la critique que moi j'ai envie de faire, c'est. J'ai rien contre l'usage stratégique de l'argent pour atteindre des buts qu'on se fixe. Je le fais aussi. N'importe quel entrepreneur le fait à des niveaux variables. Donc que tu commences et que tu as peu de moyens, tu prends des décisions stratégiques pour améliorer ta boîte, aller vers la mission que tu te fixes et ainsi de suite. Tout le monde fait ça. Donc effectivement que Elon Musk rachète un Twitter par rapport à ce qui est stratégique pour l'écosystème de toutes ces entreprises, why not? En revanche, ce qui est critiquable, c'est les missions qu'on se fixe. Et à mon sens, pour revenir sur ce truc de le but d'une entreprise, c'est quoi? C'est résoudre des problèmes pour les êtres humains et le monde dans lequel on vit. À un moment donné, je pense qu'il faut qu'on décide c'est quoi les missions et la philosophie de vie qu'on a envie d'incarner dans notre économie et dans le monde dans lequel on vit, quoi. Et ça peut être une décision politique au niveau national, ça peut être une décision commune de l'humanité entière, même si bon, je pense que c'est un niveau un peu trop vaste pour qu'on prenne des décisions tous ensemble. Ça peut être un niveau local, enfin, il y a plein de trucs, tu vois. Par exemple, au niveau local, ça pourrait être dire, ben, en fait, je considère que McDonald's n'est pas au service des problèmes du monde, donc la mairie décide de ne pas accepter un McDo qui veut racheter un truc, par exemple. Enfin bref, on divague sur des exemples concrets, mais du coup, c'est là où je pense qu'on peut critiquer, c'est de se dire l'argent n'est pas le problème, à mon sens. L'argent reste l'outil. C'est la question de la finalité.
Ouais.
Et donc, qu'est-ce que je fais de cette accumulation de finances? Et c'est là où je pense qu'il y a des critiques qui sont intéressantes, comme les critiques faites par Oxfam récemment sur le sujet des milliardaires français, sur cette question des retraites d'ailleurs. C'est de dire, il y a des personnes qui ont des fortunes immenses. Si elles contribuaient ne serait-ce que 2% de ces fortunes, le sujet du manque d'argent pour les caisses de retraite disparaît. 63 personnes, 2% d'une fortune qui est déjà si immense que 2% ils ne le voient pas, et c'est ce qu'ils dépensent en 10 ans, quoi. Et ça fait en sorte que des millions de personnes n'ont pas besoin de travailler 2 ans de plus, parfois dans des conditions exécrables, pour financer la retraite. Et moi, je trouve que, du coup, ce serait un bon usage de cet argent. En tout cas, et je ne sais pas, parce que je ne serai peut-être pas dans cette situation et je ne le suis pas, mais j'ose espérer que j'aurai la clarté d'esprit de me dire qu'un acte de ma part peut faire en sorte que des millions de personnes vivent mieux. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de millionnaires et milliardaires étrangers en Amérique, en Angleterre, qui ont publiquement fait la demande d'être davantage taxés.
Ouais, j'ai vu ça. 200 millionnaires, c'est des
qui ont fait une sortie publique en disant on veut être taxé plus, parce qu'en fait eux, ils vont utiliser leur argent pour faire quoi? Juste s'enrichir plus. Enfin, il y a un moment où la courbe se décorrèle entre le bonheur, la qualité de vie et l'argent.
Après, certains qui nous écoutent pourraient te dire que
ça crée de l'emploi, c'est ça que
non,
tu veux dire?
Non, attends. Pourraient te dire que on est déjà bien taxé en France.
Ah, mais
tu vois, et donc du coup est-ce que plus de taxation
ça dépend
et la solution,
à qui.
Ouais. Tu vois, est-ce que si on taxait plus les milliardaires, il y aurait autant de milliardaires et donc autant de création de richesse derrière?
C'est l'argument de
si on taxait l'avocat plus, du diable. Mais
t'as bien raison, et c'est complètement le bon rôle que tu dois avoir sur cette interview, parce que ça me fait parler. C'est si là on rentre dans des mondes où oui, je creuse beaucoup et j'explore beaucoup le sujet, mais je peux pas avoir la vérité entière parce que c'est pas le sujet de toutes mes journées qui m'obsèdent tous les jours, parce que j'ai d'autres choses à faire, effectivement. Mais en revanche, donc c'est l'argument de si on taxe plus, les milliardaires juste partent dans d'autres pays.
Parce que c'est déjà un peu le cas.
C'est une vraie réflexion qui est hyper intéressante, du fait qu'on soit dans un environnement mondialisé et où tout le monde se fait concurrence. Donc là, ce que ça remet en question aussi, c'est peut-être que le système mondialisé capitalistique où on commande des produits au fin fond de nulle part dès que ça se remplace, peut-être qu'il n'est pas si malin que ça, parce que du coup ça veut dire que on est tellement dépendant des autres, et on l'a vu avec la guerre en Ukraine, la Russie, les comportements de la Chine, tous ces trucs là
le Covid aussi, hein.
Le Covid, c'est qu'en fait on est tellement dépendant du fait que 8, 9, 10 milliards de personnes aillent dans un sens commun, peut-être c'est un peu trop complexe. Mmh. Et donc, ça pose des questions hyper intéressantes sur comment on structure un pays, comment on structure une économie. Et c'est là où il y a plein de penseurs fascinants sur ces sujets. Par exemple, il y a un livre très intéressant sur ces sujets économiques qui s'appelle « Donut Economics » de Kate Raworth, qui est une chercheuse en économie qui a publié ce livre et qui fait des TED sur le sujet, qui reparle de, comme on disait tout à l'heure, les mesures économiques sont mauvaises. Si on mesure que la croissance, évidemment que c'est une mauvaise nouvelle que les milliardaires partent. Mmh. En revanche, si on mesure l'économie en se disant qu'elle a deux objectifs, le premier, faire en sorte que les minima sociaux soient garantis pour tout le monde, donc qu'on puisse se loger, se nourrir, se vêtir. Objectif 1, une fois qu'on a atteint cet objectif, objectif 2, ne pas consommer plus de ressources que ce qu'on est capable de vraiment avoir grâce à la planète. Si on est dans ce sweet spot, donc ça fait un donut sur son schéma, là, l'économie, elle est optimisée pour l'épanouissement humain, pas pour la croissance. Et dans une économie optimisée pour l'épanouissement humain, peut-être que c'est pas une si mauvaise chose que des personnes qui ont énormément d'argent construites sur la colonisation, l'exploitation humaine, enfin plein de choses comme ça, comme certains amis dont je ne mentionnerai pas le nom qui ont la main sur Canal+, par exemple.
Tu veux vraiment me faire striker cette vidéo je plaisante.
Peut-être qu'elle sera strikée et peut-être qu'on devra la diffuser par nos newsletters, on verra.
Peut-être.
Nous sommes en train de détruire Internet. Mais peut-être c'est pas une si mauvaise chose en fait. Mais c'est juste une question de le système qu'on crée pour organiser la vie entre êtres humains, ça récompense quoi comme comportement ? Aujourd'hui, ça récompense la croissance, peu importe les moyens. Et si on fait fuir des gens qui sont dans cet état d'esprit-là, qui est d'ailleurs pas forcément de leur faute, qui est encore une fois un système de conditionnement par la puissance de l'histoire qu'on a racontée comme étant la manière de vivre.
C'est systémique.
C'est systémique plus que personnel. Moi, j'ai rien contre ces êtres humains-là. Je pense qu'ils sont très gentil, très intelligent, et c'est pas des grands méchants, tu vois. Mais systémique, le système dans lequel on vit les récompense pour se comporter de cette manière, donc évidemment qu'on va le faire, on est un peu comme des animaux là-dessus.
Tu vois, quand je t'entends parler, je me dis, c'est fou, parce que aujourd'hui, on peut avoir une tribune et diffuser des idées extrêmement facilement, c'est-à-dire que là, un discours comme t'as aujourd'hui, probablement qui va être entendu par des centaines, des milliers de personnes, et ça va peut-être être ça va peut-être faire écho et ouais, peut-être créer des choses incroyables. Et justement, je voulais faire le pont avec le contenu qui est important dans ta vie et qui est important dans ta façon de créer ton business. Et là aujourd'hui, tu t'en sers aussi pour diffuser des idées qu'avant tu diffusais pas. T'as passé un cap là-dessus. Quelle est ta stratégie pour être aussi omniprésent en termes de contenu, par rapport à la taille de ton équipe? Parce que pour moi, t'es un solopreneur dans le sens où t'as pas d'employé en CDI.
Ouais.
T'as une équipe de quoi, 3-4 personnes?
7-8.
7-8, ça commence à... 7-8 personnes. Mais du coup, ça commence à être pas mal. Mais
qui bossent genre un jour de temps en temps.
Voilà. Ils sont pas forcément dans des bureaux, non, etc. Non. Et même pas du tout. Comment tu t'organises ta création de contenu pour avoir cet impact-là, pour être aussi présent, aussi régulier aussi, depuis autant d'années, avec finalement des moyens qui sont assez petits? Finalement, tu n'as jamais investi des dizaines de milliers d'euros en pub Facebook, par exemple,
non,
pub Insta.
Pour faire le pont entre les deux, ce qu'on disait juste avant sur la politique et ça, je pense que c'est le même discours sur l'espace médiatique. Donc la création de contenu, c'est aller dans l'espace médiatique, que ce que je disais sur l'espace politique. Si on ne s'empare pas de l'espace médiatique pour partager notre vision du monde, on le laisse à d'autres. De la même manière, si on ne s'investit pas dans l'espace et le monde politique, on laisse l'espace à d'autres qui ont peut-être une vision complètement à l'inverse de nous, de le faire à notre place. Donc déjà, pour moi, c'est quelque part un acte militant de se dire « je vais aller dans l'espace public, sur Instagram, sur LinkedIn », pour véhiculer des idées qui me semblent importantes pour le monde. Et donc déjà, tu vois, cette manière de le voir, ça crée en moi une énergie de en fait, je crois que j'ai des choses importantes à dire pour faire en sorte que le monde aille dans la direction qui me parle plus. Et d'ailleurs, pour ça, pour toutes les personnes qui ont écouté le discours politique jusque-là que je faisais tout à l'heure, j'en sais rien de si j'ai la vérité. Je ne sais pas si ce que j'avance là est la meilleure manière de faire. Peut-être que je me trompe royalement et je me le souhaite. Parce que si on va dans la bonne direction, bah super, allons dans la bonne direction. Ouais. Après, je crois qu'il y a des faits scientifiques qui valident davantage mon point de vue sur l'écologie, sur tout ça.
T'as tes propres croyances, en tout cas. Voilà.
En tout cas, il y a des choses qui me font croire que mon approche est censée. J'essaye de me documenter le maximum possible auprès de sources vérifiables et intéressantes et pertinentes. Et ça, ça me crée un espèce de feu intérieur, tu vois. J'ai envie de tout défoncer pour être visible. J'ai envie de faire en sorte que les gens entendent davantage ma voix parce que je la trouve plus équilibrée, sensée dans le respect des humains et du monde que la voix d'autres personnes. Donc déjà de se dire, ok, l'espace médiatique, si je ne le prends pas, je laisse d'autres personnes le soin de régir le monde parce que les médias ont toujours été la source du conditionnement. On ne se rend pas compte, mais ce qu'on consomme sur Instagram nous conditionne. C'est de la propagande quelque part. Et donc si on ne prend pas parti au jeu, on laisse le jeu nous influencer, nous, quoi. Donc déjà, je me dis ça. Une fois que je me dis ça, je me dis, ok, m'emparer de cet espace me permet de faire passer des idées qui me semblent pertinentes et justes. Une fois que j'ai ça, comment je m'organise concrètement ? Je construis ce que j'appelle des contenus piliers. Donc c'est des gros morceaux de contenu qui véhiculent ce que j'ai envie de véhiculer, comme l'exemple de ce qu'on fait là aujourd'hui. Ouais. C'est un contenu pilier, c'est une conversation de une heure et demie, fouillée, approfondie, où on peut dérouler la chose.
Plein de sujets différents.
Moi, j'en ai deux, mon podcast et ma newsletter. C'est deux endroits, un dans un format audio, un dans un format écrit, mais ça pourrait être un format vidéo, ça pourrait être un format dessiné, genre des BD, qui est en gros ma plateforme principale de prise de parole. Ce qui me permet de mettre toute ma réflexion dedans et de creuser les sujets dont j'ai envie de parler. Exemple, récemment, je fais un épisode avec Alexandre Dana de Live Mentor qui s'appelle « Comment créer une entreprise au service du monde ?» et on a parlé de ce mariage entrepreneuriat-écologie. Une fois que j'ai ça, la question que je me pose, c'est comment je fais vivre ce morceau de contenu de manière répétée et plus accessible sur les canaux de communication que je vais choisir. Donc imaginons, mon canal c'est Instagram, donc je vais me dire, ok, j'ai fait cet épisode de podcast de 1h30, comment je fais pour que sur Instagram, je le diffuse de manière répétée et plus visible? Donc là, je vais me poser la question de, ok, en ce moment sur Insta, c'est quoi les formats qui sont valorisés? C'est quoi les morceaux les plus pertinents dans ce que j'ai fait qui peuvent être diffusés à cet endroit-là? Et là, du coup, je vais prendre à l'intérieur et balancer. Ce qui fait qu'un morceau de contenu donc le podcast peut devenir en réalité, si je passe le temps de montage et tout nécessaire, parce que ça prend aussi un temps, 5, 10, 15, 20, 30 autres morceaux de contenu, citations, des photos, des reels, des machins, des articles. Et donc c'est comme ça que je faisais tout seul et que maintenant je fais avec mon équipe, c'est que du coup la structuration est part de ça. Moi je m'occupe du podcast et de la newsletter. Une fois que le podcast est terminé, mon alternante prend le podcast et son taf c'est de faire des carousels pour notre compte Instagram. Mon vidéaste monte une version qu'on diffuse sur YouTube et monte des petits extraits en vidéo qu'on peut balancer sur YouTube, mais aussi en Reels, sur TikTok, si je le veux, enfin voilà, où je veux. On met ça aussi sur LinkedIn. J'ai deux personnes là qui travaillent sur le référencement naturel et les articles. Elles prennent mes newsletters et mes podcasts. Elles en font des articles en ciblant des mots-clés pertinents pour notre audience. Et donc moi, je crée une fois. Et ensuite, on a structuré le truc pour que ça se démultiplie dans plein d'autres endroits. Un autre exemple très concret que je peux donner là-dessus, on a commencé à structurer une base de données interne, qu'en fait, je structure depuis que j'ai commencé à créer du contenu, où chaque chose qu'on publie, on l'étiquette avec des mots-clés. Donc là, j'ai écrit une newsletter hier. Le titre de la newsletter, c'était « Comment transformer sa relation au doute pour pas que ce soit un frein, mais un moteur pour nos projets. » Et ça, donc, j'écris la newsletter dans ma base de données, nous c'est sur Notion, et je leur mets l'étiquette mindset, doute, confiance en soi. Et donc, je sais que la prochaine fois, imaginons dans un an, je fais une conférence ou une masterclass sur la confiance en soi. Mon alternante ou moi ou n'importe qui de mon équipe, on va dans la base de données, on tape confiance en soi ou mindset ou doute. Et on a tous les contenus étiquetés là-dessus qu'on peut réutiliser, republier, en faire des nouveaux extraits parce que tout est documenté comme ça, quoi.
Ça, c'est vraiment génial parce qu'en fait, on se rend pas compte de l'effet cumulé du contenu.
C'est immense, mec.
À la fois en termes d'impact, mais à la fois l'effet cumulé en termes d'évolution de notre pensée. Et c'est-à-dire qu'aller chercher un contenu d'il y a 2 ans, j'ai retrouvé un vlog que j'avais fait il y a 3 ans, où tu m'interviewais.
Oui, tu me l'as envoyé.
Et alors, du coup, j'ai regardé ce vlog-là et je me suis dit, ah, intéressant, parce que j'avais une façon de penser, une façon de voir aussi le contenu, on parlait un petit peu de contenu, tout ça. Et en fait, c'est hyper intéressant d'avoir cette évolution, finalement.
Grave.
Mais tu vois, en t'écoutant, il y a une chose qui m'est passée par la tête. Je me suis dit, finalement, il y a un paradoxe énorme qui est en train de se passer en ce moment. C'est qu'à la fois, moi, je suis vraiment, comme toi, un vraiment fervent défenseur du contenu. Je pense qu'en francophonie, on ne crée pas tellement de contenu, hein, finalement. Il n'y a pas de Joe Rogan francophone, il n'y a pas de grands podcasteurs, de Gary Vee. Il y en a un petit peu, mais finalement, bah, c'est quoi? C'est 15 personnes sur YouTube, 25 personnes, mais ce n'est pas pareil. Et donc, je crois au contenu. Je pense que c'est hyper intéressant. C'est que le début et chacun peut trouver sa niche, son audience. Et en même temps, on est dans un monde où on est en train de se bousiller le cerveau. Et parce qu'en fait, notre attention, elle est aspirée quoi, par des outils, par TikTok, par tout ça. Et je trouve qu'il y a un paradoxe énorme qui se crée. Moi, à la fois, je suis défenseur du contenu, mais en même temps, je sais que c'est la guerre de l'attention et que ça peut aussi avoir un effet un peu, ouais, un peu nocif. Comment on peut s'y retrouver là-dedans?
C'est le même modèle mental que je disais sur la ville et sur Paris. Le contenu, c'est la stimulation. Ça nous donne de la créativité, des idées, des nouveaux angles de vue. Et c'est important d'aller se nourrir. Moi, j'adore cette question de... Quand je découvre un truc ou quand je lis un livre, il y a une question dans mon truc de prise de notes et que j'adore me poser, c'est... Qu'est-ce que cette idée-là que je viens de lire invalide de ce que je sais déjà? Et du coup, je peux refaire l'exercice qu'on disait tout à l'heure d'aller dans des sources à chaque fois avec des points de vue opposés pour compléter ma pensée. Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, le savoir, c'est ça qui nous fait progresser quelque part parce que on progressera jamais jusqu'au bout parce qu'on reste, je pense, 99% du temps ignorant des choses parce que le monde est tellement complexe, on ne peut pas tout savoir.
Je ne sais pas ce que je ne sais pas.
Exactement. Et en même temps, on ne peut pas faire que ça,
ouais,
parce qu'on a besoin de digérer. Et ça, c'est une des personnes que j'ai interviewées sur le podcast, qui s'appelle Jules Zimmermann, qui était un ancien chercheur, et maintenant, il fait plutôt des trucs sur la créativité, mais il se nourrit de son éducation de chercheur, quoi. Il parle dans un de ses livres, et on en a parlé sur le podcast, de la créativité active et de la créativité passive. Et il dit, pourquoi, à ton avis, est-ce que les gens ont des idées sous la douche? Parce que c'est le seul moment où ils s'arrêtent assez longtemps de consommer pour laisser le temps à leur cerveau de réorganiser les idées et de les ranger dans les cases. Parce qu'en fait, c'est ça qui vient de notre cerveau. C'est soit il est en train de aspirer du savoir et donc essayer de le... Enfin, ça rentre dans la machine.
Soit de créer des ponts.
Soit de réorganiser et de faire des ponts entre les trucs. Et en fait, si on est tout le temps en train de bouffer, t'as jamais le temps de réorganiser. Et c'est pour ça que les idées naissent sous la douche, parce que c'est le temps passif dont notre cerveau a besoin pour ranger. Et du coup, c'est comme avec la ville, à mon sens, on a besoin des deux. Il faut juste trouver son propre régime. Et je pense qu'effectivement, nos régimes sont largement déséquilibrés vers la stimulation et beaucoup, beaucoup moins vers l'espace de prendre le temps, de se reposer. Et c'est le même truc sur le burn-out. Enfin, pour moi, c'est le même modèle mental. Et on le voit avec aussi l'évolution du désir de personnes de faire des retraites silencieuses, de le détox digital, d'éteindre leur téléphone. C'est qu'en fait, quand tu le fais, ta créativité revient, l'envie revient. Enfin, t'as plein de choses qui renaissent auxquelles t'as peut-être pas goûté depuis super longtemps parce que t'es juste en train de manger, 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 quoi. Ouais. Donc oui, quelque part, en créant autant de contenu, on nourrit ce système. Et en même temps... Moi, c'est un des axes de prise de parole que j'ai souvent. On se moque de moi d'ailleurs. Mes potes se foutent de ma gueule, mais j'ai un reel sur mon Insta où c'est en mode « Éteins ton téléphone, va marcher tout de suite, ne prends même pas le temps de liker, je veux que tu t'en ailles. »
Arrête
et je
de regarder
barre.
Ce reel. Ouais, je veux que pas...
Parce que j'ai envie de... Ça fait l'effet opposé parfois et les gens commentent et tout. Mais en vrai, j'ai des gens qui m'ont déjà dit « Ok, super, merci. » Et tu vois, ça leur arrête dans leur scroll... Le scroll infini quand tu te lèves ou quand tu te couches. Ouais. Mais il y a des gens, ce genre de truc, ça les arrête. Et il y a un gars, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est très drôle. Son compte TikTok entier, c'est ça. C'est lui qui arrive devant la caméra avec une chope de bière. Il boit de l'eau et là, il crache par terre. Et il dit, qu'est-ce que tu branles? va à la gym,
ah oui.
va au sport,
avec mes cheveux longs, ouais. Go to the gym.
Exactement. Ouais, c'est vrai, et c'est que ça. Ouais, et à chaque fois que moi je le vois, parce que je suis dans, des fois je me perds dessus aussi, tu vois, je suis en mode, il a raison et je coupe.
Ouais, ça c'est vraiment, je pense que c'est un des grands paradoxes de notre époque, quoi. C'est-à-dire qu'à la fois il y a la puissance de la tribune qu'on peut s'offrir comme ça gratuitement, sans gatekeeper, sans rien. Mm. On peut parler, et en même temps, eh bien, il faut aussi avoir un rapport sain à la consommation de contenu. Et, c'est un peu comme c'est un peu une question de nutrition finalement aussi,
ouais.
En termes de qualité aussi de contenu qu'on ingère. C'est-à-dire qu'il y a le divertissement, tu peux regarder un MrBeast, tu peux regarder des TikTok. Si tu fais que ça, santé mentale, on le verra dans plusieurs années, mais je pense que niveau santé mentale, c'est catastrophique.
C'est clair.
Et en même temps, tu as des formats longs comme on est en train de faire. Un format long comme ça, ben, tout le monde n'a pas l'attention d'écouter 1h15, 1h30. De...
Moi, c'est les seuls trucs que je consomme en vrai.
Mais,
c'est que des podcasts très longs ou des livres.
Ouais.
Rien d'autre.
Parce que ça te laisse le temps de faire des ponts. Un podcast long, en fait, ça te laisse le temps de te mettre dans un état un peu comme quand t'es sous la douche, parce que t'entends la même personne, tu te concentres, ça va au rythme d'une conversation réelle aussi. C'est pour ça que les interviews, c'est incroyable.
Ouais, bah
ça
ouais,
va
moi j'adore.
Au rythme d'une conversation réelle.
Et je pense que c'est aussi très soulageant parce que ça nourrit pas notre système de récompense et de dopamine.
Oui.
Là où TikTok et tout, à chaque fois que tu scrolles, tu sais pas, donc c'est de la psychologie. Et ça, c'est... Pour toutes les personnes qui n'ont jamais regardé ce documentaire qui s'appelle « Derrière nos écrans de fumée », regardez-le parce que, en gros, ça te permet de comprendre qu'un TikTok, un Instagram, un Facebook, tout ça, il y a des milliers d'ingénieurs. Donc des gens qui sont tellement, tellement intelligents et qui ont mis toute leur réflexion sur une seule question, comment je fais pour que les gens restent plus longtemps ? Et nous, on est face à ça, genre c'est une armée d'ingénieurs face à nous et notre petite volonté de réussir à poser le téléphone. Évidemment qu'on perd cette guerre. Et donc, j'essaye et je suis ravi de ne pas de moins en moins tomber dans ça parce que du coup, en fait, je consomme ailleurs un livre. Le seul risque, c'est de trop lire parce que l'histoire est trop fascinante. Et bon, ça va, tu vois. Au pire, je m'endors un peu plus tard. Alors que les réseaux...
Je te rejoins sur le fait que écouter des longues interviews, lire des livres, ça restaure un petit peu notre attention. Et notre niveau d'attention.
Comme un jeune.
On est en train de perdre. Ouais, comme un jeune un peu. Qu'on est en train de perdre tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais fais pas des interviews trop longues. Et moi, je me dis, mais moi, je veux des interviews où on a le temps de parler de plein de sujets. Imagine, en l'espace d'une heure et quart, là, le nombre de sujets qu'on a.
Ça fait une heure et quart déjà ?
Ouais. Tu vois, et je
merde,
me dis,
c'est bientôt fini.
Et c'est bientôt fini, et oui, mais. Mais, t'imagines le nombre de sujets qu'on a abordés. Et tu vois, j'avais deux dernières questions pour toi.
Parfait. Je vais me permettre de prendre longtemps pour y répondre.
Tu peux prendre le temps que tu veux pour y répondre. La première, c'est qu'en fait, on voit en t'écoutant, on se rend compte qu'en fait, t'as eu un cheminement qui est de plus en plus profond. En fait, moi, je te connais depuis un petit moment maintenant, et je sais que chaque année, tu construis petit à petit, tu t'élabores ta pensée, tu vas en profondeur, et donc on se dit, mais il réussit tout, ce mec, en fait. Finalement, il réussit tout.
Non.
Quelle a été l'épreuve récente que tu as traversée dans ton business, plutôt, qui peut nous prouver qu'en fait, non, tu ne réussis pas tout. Et comme tout le monde, tu as quand même des moments difficiles.
Je pense que, donc on est au mois de mars, depuis le mois de novembre dernier, je traverse, je pense, la période la plus stressante de ma vie. Mm. Et c'est lié à mon entreprise. Ça vient du fait que, en allant dans la direction de davantage me structurer, recruter une équipe, suivre la voie que j'ai choisie pour ma boîte, qui n'est pas une voie pour tout le monde, mais qui est celle que j'ai choisie sciemment, parce que ça fait sens par rapport à où j'ai envie d'aller, j'ai du coup augmenté de manière mécanique les dépenses de la boîte. Donc globalement, pour donner des références chiffrées, je les donne toutes dans mon article de bilan de fin d'année dernière qui est accessible sur mon site. Mais en gros, ça veut dire qu'à partir du mois d'octobre de l'année dernière, j'ai recruté beaucoup plus, il y a mon alternante qui est arrivée, enfin plein de choses, et je suis monté à des dépenses. Globalement, les dépenses de la boîte sont aujourd'hui entre 10 et 15 000 euros par mois. Le chiffre d'affaires est lui aussi entre 10 et 15 000 euros par mois. Et J'avais jamais vraiment été un gestionnaire d'entreprise qui met beaucoup la tête dans les finances et ainsi de suite. Enfin, tu me connais et tu sais que j'ai toujours été plus sur le côté créativité, marketing, machin, les idées.
Plus l'artiste que le gestionnaire.
Et là, du coup, pour aller où j'ai envie d'aller, il fallait que je développe cette partie-là de ma personnalité entrepreneuriale, de devenir un gestionnaire. Donc, les tableaux de prévision financière, mieux gérer ces aspects-là. Et donc, j'ai un super tableau de gestion financière aujourd'hui où j'ai mon prévisionnel à l'année, je fais des petites modifs, j'ai une courbe de trésorerie qui change et tout, c'est trop bien. Sauf que, du coup, assez mécaniquement, quand tu es face à ces informations qui sont très visuelles et aussi très émotionnelles, parce que l'argent, on a un rapport émotionnel assez étrange avec l'argent, les êtres humains, ça déclenche des choses. Et du coup, juste ma norme, mon système nerveux n'était tellement pas habitué à cette réalité de dépenser tous les mois le revenu annuel de quelqu'un, et ça j'ai vraiment envie d'appuyer dessus, il y a des êtres humains en France, leur revenu annuel c'est 10 000 balles, 15 000 balles, ma mère c'est 18 000 euros parce qu'elle travaille à mi-temps. Ça c'est la réalité de centaines et de centaines de milliers de personnes. On s'en rend pas compte, nous, dans notre petit écosystème parisien.
De millions.
Millions de personnes, t'as raison. Et moi, j'en suis arrivé à un stade avec ma boîte où c'est ce que je dépense tous les mois. Donc tous les mois, fois 12, je dépense le revenu annuel de quelqu'un. Cette information-là, quand je l'ai vue sur mon tableau, ça m'a fait péter un câble. J'étais en mode, mais est-ce que je suis pas en train de faire une énorme connerie ? Est-ce que je suis pas en train de juste vriller et faire n'importe quoi ? Parce que mes seuls repères... c'est des repères de freelance. Tu vois, j'ai jamais mis les têtes vraiment dans les finances des grosses boîtes dans lesquelles j'ai bossé avant ou qui étaient mes clients. Et du coup, mes repères, c'est je suis freelance, si je gagne 3 000, je peux pas dépenser plus que 3 000 parce que sinon je suis pas rentable, je peux pas payer mon loyer. Donc il faut que je dépense à peine la moitié parce qu'il me faut 1 000, 1 500 balles pour vivre. Et donc là, j'arrive à des stades où bah, du coup, tu fais rentrer de la trésorerie. L'année dernière, j'ai fait rentrer un gros contrat à 30 000 où du coup, il y a tout d'un coup 35 000 euros qui sont tombés sur mon compte. Bah, du coup, OK, j'ai de la trésorerie, je peux investir, je vais faire des choses, je vais jouer avec ça. Et c'est une autre manière de gérer les thunes. Donc là, fin d'année, il y a 3 mois de suite, je dépensais plus que ce que je gagnais. J'avais de la trésorerie, mais dans ma tête, ça vrillait. Tu vois, j'étais en mode, je fais n'importe quoi, je fonce dans le mur. Et j'en suis arrivé à des stades de stress où je me suis vu avoir des comportements d'hyperphagie, c'est-à-dire que émotionnellement, la seule manière de gérer, c'était de me jeter sur la bouffe. Donc, je bouffais n'importe quoi. Le moment où ça a été le plus dur, c'est on partait en un séminaire avec le mastermind duquel je faisais partie. Et on avait à un moment 1h30 de bus. Et j'étais tellement mal. Et à chaque fois que le bus passait devant une boulangerie, alors que je venais de manger il n'y a pas longtemps, hein, j'avais une sensation de faim. Mais c'était juste parce que je cherchais à couvrir les émotions de l'anxiété que je vivais. Et ça, ça a été vraiment dur parce que comme si je me regardais dans la glace et je détestais ce que je voyais. Genre, je me suis dit « Putain, mais t'es devenu quoi, quoi ?» Et ça, c'est vachement dur de se rendre compte que quelque chose qu'on aime autant que son entreprise, enfin, je suis tellement amoureux de ce que je fais tous les jours et de mes clients et de ce que ça me permet de vivre, me fait aussi vivre ces niveaux de stress et d'anxiété que j'avais jamais vécu. Là, j'en sors un peu, tout simplement parce que mon système nerveux s'est habitué à se dire « Ok, bah, je vois sur mon tableau que ce mois-ci, on a dépensé 11 000 balles et on a fait rentrer 15 000. » En fait, c'est ma nouvelle norme, tu vois. Je deviens de plus en plus habitué à ça.
À cette réalité-là.
Et je pense que ça, c'est un truc dont il faut se rappeler, c'est que on n'est pas optimisé, nous, les êtres humains, à des changements drastiques, radicaux, rapides. Et tous ces discours qu'on voit dans notre milieu de l'accompagnement, du coaching, du machin, qui disent « fais décoller ton chiffre d'affaires, exploser ton business et tout », et qui te souhaitent de passer de 2000 euros par mois à tout d'un coup 15 000. En fait, moi, je vous le souhaite pas, les gars. Parce que si ça se passe, t'es juste pas prêt à gérer.
Ouais.
T'es pas habitué, c'est pas ta norme. Et du coup, forcément, c'est ultra dur. Et donc, moi, je préfère largement cette vision de se dire bah, « allons-y pas à pas, tranquille ». Le temps que nos systèmes nerveux s'habituent petit à petit, parce que c'est là où tu vas trouver ton épanouissement. C'est pas d'en progresser juste hyper vite jusqu'à la ligne finale d'arrivée. C'est le chemin. Et donc ça, ça a été vachement dur. Je sais pas si je dirais que c'est un échec, mais j'ai l'impression que moi, dans mon mode de fonctionnement, j'ai souvent besoin d'aller trop loin pour rééquilibrer. Donc là, je rééquilibre, j'investis un peu moins, je dépense moins. Je me rends compte que malheureusement, ma boîte a un truc très saisonnier. Donc là, par exemple, le mois de février-mars, ma courbe de trésor disait « Attention, peut-être tu vas passer en négatif. » Donc j'étais en mode « Putain, mais comment on fait si on passe en négatif et que j'ai plus d'argent sur le compte bancaire? Est-ce qu'il y a des solutions ?» Donc ça aussi source de stress. Mais j'apprends des choses comme ça.
Ouais, mais c'est...
Mais ouais.
Les hauts et les bas de l'entrepreneur. Mais merci de partager ça avec de la vulnérabilité, parce que je sais que tout le monde ne ferait pas ça, et j'avais vraiment envie que tu partages aussi quelques galères, parce que on en vit tous, quoi. On en vit tous.
Et je pense que c'est hyper important dans un monde où on est biberonné par les réseaux sociaux, où la norme, c'est de montrer qu'on est lisse, qu'on est parfait, qu'on est bien. Et ça aussi, mes engagements un peu militants me poussent à me dire que j'ai envie de changer les normes sur notre écosystème. Tu vois, le coaching, c'est très devenu « il faut que je sois parfait, que je montre que tout va bien pour moi, parce que c'est ça qui fait vendre. Si j'ai des failles, et qu'en fait je montre que j'ai peut-être pas toujours été très bon dans la gestion financière de ma boîte, qui suis-je pour enseigner ça à d'autres ?» Mais en fait, c'est deux choses très différentes, enseigner et faire concrètement de manière parfaite. Et je crois pas que le but, c'est d'être parfait. À mon sens, le but avec toutes ces choses qu'on fait dans nos boîtes, comme tu le dis, c'est 1. Apprendre à mieux se connaître, 2. Être plus épanoui, et peut-être un jour faire les choses tellement parfaitement que ça roule tout seul. Mais je ne crois pas vraiment à ce qu'on arrive un jour à cette perfétude où tout roule tranquille. On est toujours en train de corriger le tir, en fait, sur tous les sujets. Et je nous souhaite de toujours être en train de corriger, parce que c'est là où on progresse, en fait. Si c'est parfait, on progresse plus.
Je te rejoins à 1000% là-dessus. Faut ajuster, quoi. Ajuster, avancer.
Et donc, montrer où on se trompe sur Internet, à mon sens, c'est au service du fait que ça devienne une norme dans nos écosystèmes, plutôt que la norme de « il faut que je sois parfait » qui paralyse énormément de gens, en fait.
J'avais une dernière question pour toi. J'avais une dernière question. En fait, je me rends compte que l'admiration, c'est quelque chose qui est de moins en moins bien vu, j'ai l'impression, dans la société.
Ah, yes.
Et j'avais envie de te poser cette question. Qui est-ce que tu admires? Parce que, juste pour continuer l'explication...
Vas-y, comme ça je réfléchis.
Ouais. En fait, je me rends compte que oui, maintenant, être un peu un fanboy ou admirer des gens, c'est assez mal vu, alors qu'en fait, on a tous les moyens autour de nous pour se plonger dans la vie de certaines personnes, dans les réflexions, dans les livres, dans le contenu des gens. Mmh. Et donc, en fait, moi, dans mon quotidien, j'admire énormément de personnes, quoi. Et ça me nourrit. Et en fait, je me rends compte que ça peut être un peu mal vu, alors qu'en fait, je pense que c'est essentiel pour avancer, pour se... Voilà, sans forcément se diminuer nous-mêmes, mais je trouve que c'est bien, c'est plutôt sain comme façon de faire, et Internet nous permet de faire ça, quoi. Et ouais, toi, qui tu admires?
Je crois que ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure sur les modeling et les mentors, c'est que ça change. Ça change aussi au rythme où on se développe nous-mêmes et où on s'identifie à des nouvelles facettes de nous, où on se dit « je suis ça, je ne suis pas ça ».
Je te rassure, j'admire une personne tous les mois.
Ouais, bah ouais,
personne différente.
Et je pense que qu'est-ce qui nous pousse à admirer des choses chez les autres? Ça aussi, c'est un truc qu'on fait en coaching dans nos séminaires que j'adore, c'est de se dire « quand j'ai de l'admiration pour quelqu'un, souvent c'est parce que je me raconte l'histoire qu'ils incarnent quelque chose que je n'ai pas ». Et donc on se dit « waouh, cette personne, elle est fascinante, nanana ». Et que se relier à ça, ça nous permet quelque part de nous rendre compte qu'en fait, j'incarne aussi ça dans d'autres endroits. Et ça, c'est un exercice que j'adore faire aux gens qu'on accompagne, c'est de dire qui sont trois personnes que tu admires? Pour chaque personne, c'est quoi les trois qualités que tu admires chez cette personne? Maintenant qu'on a identifié ces qualités, liste-moi toutes les fois où tu les as incarnées dans ta vie.
Incroyable. Génial.
Et en fait, les gens se rendent compte, ah, mais je les incarne déjà. Et souvent, ça permet aussi de rééquilibrer le côté « je mets des gens sur un piédestal parce qu'ils sont fascinants pour plein de raisons ». En fait, moi, j'ai aussi ça dans ma vie. Ouais. Peut-être à un autre niveau, peut-être dans d'autres domaines de vie, mais je l'ai aussi. Et ça nous permet aussi de nous rééquilibrer sur la perception de notre propre valeur, en fait. Et ça, c'est un gros levier. Si je me raconte l'histoire que j'ai aucune valeur, c'est très dur d'aller créer du contenu, parce qu'on en a parlé, c'est très dur d'aller exister dans d'autres environnements. Et donc rééquilibrer ça fait du bien. En ce moment, les gens que j'admire, en tout cas les gens
qui t'inspirent,
pour qui je cultive de l'admiration,
okay,
parce que je pense que c'est aussi un acte. C'est les entrepreneurs invisibles, mais qui sont la majorité des entrepreneurs de notre pays, qui sont les petits commerçants, les maraîchers. C'est 90% des entreprises en France. Mais ce n'est pas les gens qu'on voit. Les gens qu'on voit, c'est le 0,01% qui font des levées de fonds et qui sont médiatisés, que notre système politique adore mettre en avant et montrer que c'est ça la voie. Enfin voilà, ils célèbrent ces gens-là. C'est le plus petit pourcentage de ce que c'est vraiment l'entrepreneuriat. Et du coup, j'en parlais à midi avec Alain, dont je parlais tout à l'heure. Mais un truc que j'ai vraiment envie de faire, c'est célébrer aussi ces gens-là. Les gens qui, dont le rêve, c'est ouvrir une boutique dans un village. Ou qui veulent ouvrir un bar. Parce qu'ils veulent, ou une boulangerie, et ils veulent créer un lieu où les gens se sentent bien et ils se retrouvent après le taf quand ils ont bossé dans les champs pendant 8 heures et qu'ils sont éclatés et qu'ils ont juste envie de se poser et de papoter avec leurs potes. Putain, ces gens-là, ils améliorent la vie de tellement de personnes, personne n'en parle. Et donc j'ai envie de leur offrir une plateforme. Et ces gens, ils m'inspirent en fait. C'est eux, pour moi, c'est eux les héros de l'entrepreneuriat. Parce qu'ils galèrent de ouf en plus. Parce que personne pense à les soutenir et les subventions pour eux, ça n'existe pas.
Hein. Hyper inspirant, hyper intéressant, parce que c'est vrai qu'on ne donne pas trop de plateforme à ces gens-là.
De ouf.
Et alors qu'on a les moyens de le faire, quelque part. Merci, Thomas.
Avec plaisir.
Où est-ce qu'on peut te retrouver si on
Je crois qu'avec ce que tu dis, c'est partout, du coup.
Ben oui, un petit peu partout.
Non, en vrai, deux choses. Si les gens ont envie de consommer de la pensée que je produis, les deux meilleurs endroits, c'est le podcast où je discute avec des gens comme ici, donc c'est plus je fais parler les gens et je me tais, ou la newsletter où là pour le coup j'écris toutes les semaines voire deux fois par semaine en ce moment des pensées sur des sujets qui ont un lien avec l'aventure entrepreneuriale. Sinon je suis plutôt présent sur LinkedIn et Instagram
Sinon ton
sous
site.
Le nom de Thomas Burbidge. Et effectivement, si on veut une plateforme qui regroupe tout, même si on est en train de reconstruire le site en ce moment, je trouve qu'il est un peu fouillis. Mais du coup, thomasburbidge.com. Globalement, tapez Thomas Burbidge dans Google, prenez le lien qui vous inspire et suivez la route.
Merci beaucoup.
Avec plaisir, merci à toi Romain, c'était trop bien.